Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, chers amis, avec un plume qui a un sabre laser dans les mains, on ne sait pas pourquoi.
Parce que j'ai la force.
Vous savez, évidemment, on va parler de Star Wars.
Ah bon ?
Jedi Fallen Order avec l'ami Johnny One,
bonjour,
ici
bonjour.
Présent. Ça roule ?
Bah ça va, tranquille. Hein.
Cool.
Et ouais, hein.
On va pas parler que de Star Wars, on va aussi parler de Pokémon avec Tiger.
Salut Traz.
Ça va ?
Ça va et toi ?
Ça baigne ?
Yes.
Tranquille. Et donc Plume qui fait le fanfaron à côté là avec son sabre laser en plastoc.
Comment ça il est en plastoc ? C'est pas vrai ?
Il nous parlait notamment du X019. J'allais dire XO19.
Attention, touche pas la lame avec la main.
Ils disent XO19.
Hein. Ah, ils disent XO19 ouais. Donc en fait, on met un 0 depuis longtemps, en fait, non.
Bah ouais, visiblement. Même sur les réseaux sociaux, ils mettent le hashtag avec un 0. Et visiblement, on se trompe. Mais eux, ils disent XO19.
Enfin,
XO19.
Bah ouais.
Mais pourquoi XO?
C'est comme un bisou.
Comme les bisous.
Les bisous, quand tu signes, tu dis XO.
D'accord, ok. Bah écoute, j'ai appris un truc et j'espère que vous aussi. Ou pas, d'ailleurs. Bienvenue donc dans ce podcast 513. On va vous parler, comme je viens de le dire, du XO19. De Pokémon bouclier
et épée.
Et épée, donc, dont tu as fait le test récemment. Et Jedi Fallen Order.
Star Wars Jedi Fallen Order.
Exactement. Vous allez en parler dans les grandes largeurs pour ces gros tests de la semaine. Mais pas que, bien sûr, il y aura aussi le win, le fail. Il y a 10 ans sur Gameblog. Et puis le hors-jeu à la fin que Johnny One nous a concocté.
Juste après l'anniversaire.
Anniversaire, exactement. Mm. Avec un indice sur la table, là, vous devez savoir, à mon avis. De quoi vont parler, ça va être encore un truc à la Johnny One.
Alors la table qui est un peu en bazar, hein, mais elle est en bazar comme une affiche de Star
Wars.
T'as
ramené tellement de goodies que du coup
elle est chargée.
On sait plus ce qui se passe, Poufy il est en panique sur la caméra, là, il se dit qu'il y a trop de choses à montrer, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça.
Mais encore vous avez pas le verso d'une des statuettes de Johnny One.
Exactement.
C'est qui déjà ce personnage, la rousse?
La rousse c'est Mara Jade.
Mara Jade.
Mara Jade qui est la main de l'empereur dans l'ancien univers étendu. Je sais pas si elle sera toujours canon.
C'est pas sa main qu'on voit.
C'est de Luke Skywalker.
Ouais voilà.
Ah ouais bah.
Et
ouais.
Elle devient la compagne de Luke Skywalker. Ils ont un enfant ensemble je crois même. Mais bon bref c'est une autre histoire.
Ouais. Bah ouais, dans l'épisode 42 de
Star
Wars.
Non, dans l'ancien univers étendu qui a été rendu plus ou moins caduque par tous les nouveaux films Disney.
Ah oui, pas plus ou moins, c'est foutu. Hein. Il y en a qui ne sait plus. Bah.
On peut toujours lire les histoires, c'est pas grave. C'est juste que c'est plus dans la continuité.
Exactement.
Comme KOTOR, comme d'autres trucs, c'est plus, ça n'existe plus.
C'est vrai. Il y a trop d'univers parallèles.
KOTOR, c'était avant. Donc ça peut toujours exister.
Non, KOTOR était
annulé.
Ah ouais,
mais bon, ça se passe 5000 ans avant, donc
c'est la vie.
On peut quand même dire que si on veut, c'est canon.
On peut plus.
D'accord. Bon, en attendant de déviser sur Star Wars, eh bien, on va vous parler tout de suite du win de la semaine et c'est Tiger qui s'y colle. Ça lui apprendra.
Oui, tout à fait.
C'est quoi Tiger? De quoi on parle?
Eh bien, le win de cette semaine concerne Nintendo.
Nintendo.
Par la voix de son PDG, monsieur Shuntaro Furukawa. Donc visage vous est peut-être un peu moins familier que celui d'ancien président de Nintendo, mais que vous pouvez retrouver évidemment dans une news dédiée sur Gameblog.
Exactement.
Et qu'est-ce qu'il nous dit, monsieur Furukawa? Il se félicite des ventes de jeux dématérialisés et des DLC sur Switch. On sait que chez Nintendo on n'est pas toujours forcément en premier en ce qui concerne la modernité. Il aura fallu quand même attendre Fire Emblem Awakening sur 3DS pour avoir des premiers DLC. Mais depuis, Nintendo est entré dans le mouvement et s'est bien refait. Pour preuve, Super Smash Bros. Ultimate, qui a récemment décroché le titre du jeu de combat le plus vendu de tous les temps. Oubliez Street Fighter, les Mortal Kombat, le plus vendu, c'est le dernier Super Smash Bros. Pardon. Et bien sûr, avec ses DLC, on le voit, il y a les passes avec les différents personnages qui sont dévoilés au
fur et à mesure.
Exactement, au fil des semaines. Et monsieur Shuntaro Furukawa explique cette bonne santé en termes de vente de DLC et de dématérialiser à travers trois points. Le premier, c'est évidemment qu'il y a beaucoup de jeux maintenant indépendants qui ne sortent pas de manière physique, donc on les retrouve directement en matérialisé. Il y a aussi eu évidemment le Fighter Pass de Super Smash Bros. Ultimate cette année qui a été très important, et l'année précédente on avait eu le DLC, le gros DLC de Breath of the Wild et de Splatoon 2. Et puis évidemment l'accès au jeu online via le Nintendo Switch Online lancé en septembre de l'année dernière, qui évidemment est payant. Et évidemment un succès pour tous les jeux multi auxquels on peut jouer. Même si le président se réjouit, il précise quand même dans la déclaration de la news qui a été relayée par Thomas qu'il sait qu'évidemment il y a encore plein de fans de Nintendo qui achètent leurs jeux de manière physique, et ça sera le cas à Noël. Mais en tout cas voilà, Nintendo qui depuis ces dernières années, on a pu le remarquer hein, sur plein de stratégies
même sur mobile hein,
voilà ouais. Que ça soit sur le mobile, que ça soit avec la présence d'une zone Mario dans le parc Universal, que ça soit en même maintenant on parle aussi de rumeurs qui feraient qu'on pourrait trouver des jeux Nintendo sur d'autres plateformes, en tout cas sur mobile, oui. Sur des plateformes, etc. Voilà, Nintendo s'étend, a pris le train de la modernité.
Ils sont venus tard, mais quand ils arrivent, ils viennent pas pour rien. Quoi.
Bah, surtout que dans les wagons, ils ont du Mario, du Zelda, du Smash Bros. Du, voilà,
forcément, donc,
ça cartonne, comme d'hab.
Tout
voilà,
à fait.
Pour le win.
Merci beaucoup pour ce win, Tiger. On va parler du fail maintenant, avec un certain Johnny Wan.
Ah bon ouais. C'est vrai. Mince.
Tu te rappelles de ce fail antique?
Ah oui. Ça y est, je sais.
Voilà, c'est bon. Regardez.
Et oui,
tout de suite.
Tout à fait. En effet, le fail de la semaine, bah, il revient à Google avec sa nouvelle machine, la Stadia, qui n'est pas forcément une machine d'ailleurs, hein, parce qu'on peut parler de machine.
Non, un service.
Voilà. Donc, et ben, ils sont. Ça commence là. On enregistre le podcast lundi.
Ouais.
Le service ouvre demain.
Ouais.
Et c'est pas prêt. C'est pas prêt.
C'est ouvert
du
hier
tout.
En fait.
Il manque plein de trucs. Il manque plein.
Bah, malheureusement,
plein,
ouais,
plein,
c'est
plein,
un, petit peu le, un petit peu la galère. Quoi.
Et ouais, donc,
et
par exemple.
Ils disent eux-mêmes d'ailleurs, hein, qu'il manque plein de trucs. Hein.
Par exemple,
nous, on,
si...
on l'a constaté ici avec le test qu'on vous a balancé, peut-être à cette heure-ci, je ne sais plus. Mais en tout cas, effectivement, Google lui-même dit qu'effectivement, il y a des manquements.
Ouais. Alors, par exemple, si vous voulez jouer via votre Chromecast, bah, c'est impossible. Oui. Seulement les Chromecast de la Founders Edition, donc, c'est-à-dire ceux qui ont backé la console et qui ont eu la version noire limitée de la console, la seule qu'on peut voir sur la table du podcast. Voilà, donc ceux qui ont eu ce pack là, eux ils pourront jouer avec leur Chromecast, mais pas les autres il faudra attendre une mise à jour qu'on nous promet rapide, mais bah, on sait pas quand
on
ça
sait
arrivera
pas quand, ouais.
Voilà, on imagine dans la semaine, les 15 jours qui arrivent. Alors pour l'instant il n'y aura pas non plus de partage de compte, c'est-à-dire que bah, si vous prenez un compte Stadia et que vous achetez des jeux dessus, votre compagne ou vos enfants bah, ne pourront pas jouer à ces jeux-là avec leur compte à eux. Voilà. Pour l'instant, si vous voulez jouer à deux fois au même jeu mais avec deux comptes différents, bah, faudra l'acheter deux fois. Alors bon, on imagine que ces conditions d'achat seront revues un petit peu assez rapidement,
bien, ouais.
Parce que c'est assez bizarre, hein, surtout quand on compare à ce qui se fait chez Sony, chez Microsoft, chez Nintendo. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de compatibilité iOS annoncée. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. On ne sait même pas si ça arrivera en 2020 sur les,
alors ça, c'est quand même
sur
galère,
les appareils
parce que
de la pomme.
Tu as
ouais.
besoin du smartphone pour piloter ton truc, etc. Donc,
Donc ça, c'est un peu la loose pour tous ceux qui sont sur les objets à la pomme. Voilà. Il n'y a pas de succès de trophée pour l'instant.
C'est le pire pour toi.
Ouais, bah,
pour toi, c'est
le compétitif que tu veux. C'est la galère.
Non, mais c'est un scandale.
Ça, c'est un détail, c'est sûr.
Ce sera
un détail
pour pas mal de monde. Oui, moi, j'avoue que ça me chagrine beaucoup. Même si on nous promet que nos succès trophées, même s'ils ne seront pas déverrouillés maintenant, ils seront mis de côté. Voilà, c'est-à-dire que vous allez jouer au jeu aujourd'hui, vous n'allez pas marquer de succès de trophée, mais quand le système sera en ligne, pouf, ça
va revenir en arrière.
Et... voilà, exactement. Vous allez marquer tous vos succès d'un coup, ça va être une orgie. Voilà.
Donc ça fait beaucoup de choses quand même.
Ouais, attends, c'est pas fini.
C'est le pire, c'est que ça.
Non,
pas
il
fini.
Reste des trucs, Alors, le Steam Connect n'est pas encore disponible pour ceux qui veulent streamer leur partie comme ça. Ça arrivera en fin d'année. Et enfin, il y a une dernière chose qui est assez chagrinante, on va dire. C'est que le Buddy Pass qui était livré avec la machine dans la Founders Edition et qui allait pouvoir permettre à un de vos amis de bénéficier de Stadia pendant 3 mois, je crois. Voilà, une espèce de parrainage gratuit, enfin un code de 3 mois affilé à un de ses potes. Bah, ce code-là, il ne sera pas disponible tout de suite. Il faudra attendre un petit peu avant de pouvoir faire découvrir Stadia à ses amis. Voilà, bah, ça fait beaucoup de choses. Hein,
bah, pour Google, qui est quand même une des plus grosses boîtes du monde, on va dire qu'ils sont... Enfin, c'est un peu bizarre, quoi.
Tout est bizarre. Non, c'est ce qui s'est passé. Quand ils ont annoncé leur liste de 12 jeux la semaine dernière, qui est maintenant passée à 22 pour le lancement, tu te dis, c'est pas possible. Comment ils ont pu ne pas réfléchir à avoir des accords immédiats avec les éditeurs tiers avec lesquels ils sont en... en deal. Enfin, il y a des trucs, c'est assez fou, quoi.
Ça fait amateur, quoi, quand même. Là,
mais c'est pas,
dire,
que ça fait amateur, c'est que ça fait pas préparé, c'est que ça fait bonjour, nous on est Google, on va juste s'appuyer sur notre nom pour essayer de faire croire aux gens que ça va marcher. Et je dois avouer que je sais que Melinda, qui travaille sur LCI, avec qui j'étais au XO19, s'est entretenue un petit peu avec des gens du Project X Cloud. Et il leur a expliqué, écoutez, nous chez Microsoft, ça fait des années et des années qu'on bosse sur des trucs. Le X-Cloud, on l'a pas sorti de notre chapeau.
Bah,
c'est des trucs qui doivent être,
ils doivent être blindés avant de lancer ça sur le marché.
Préparés, mais pendant vraiment un long moment. Et là, vraiment, ça fait vraiment Google qui arrive à l'arrache, qui dit, ah bah attends, eux ils proposent ça, bah faut qu'on fasse notre truc aussi. Et on va essayer d'aller le plus vite possible pour que ça passe vite fait. Et franchement, pour le coup, je sais pas si le lancement va pas être genre la plus grosse catastrophe industrielle de l'année, quoi.
Bah là oui, parce que si tu lances pas un truc comme ça dans le bon ordre et que les gens veulent aller dessus, ils constatent que ça marche pas du tout, ils vont pas y revenir, c'est sûr et certain.
Parce que quand t'as des promesses, surtout c'est des promesses comme ça qui sont pas tenues dès le départ, c'est vraiment très très violent, quoi. Là c'est en train de devenir le Fallout 76 du cloud gaming.
Mais on se rappellera que malgré évidemment le titan qui est Google, dans le parcours de l'entreprise, il y a déjà eu de très gros ratés.
Mais bien
on
sûr,
se rappellera
des Google Plus notamment,
qui devait être le Facebook de Google.
Exactement.
Qui a pas fonctionné.
Ça Daydream aussi, hein, qu'ils ont enterré il y a pas très longtemps.
Exactement.
Daydream, le projet Daydream.
Ah oui oui.
Il y avait aussi ce projet de messagerie interprofessionnelle et tout qui a aussi été laissé de côté. C'est-à-dire que même si évidemment quand ça nous a été présenté, on se dit c'est Google, ça va être surpuissant. Quand on regarde un peu ce qui s'est passé ces dernières années, il y a aussi des projets d'ampleur avec des moyens colossaux qui, au bout de quelques années, ont tout simplement été annulés. Et on n'est qu'à l'arrivée de Stadia, donc il y aura peut-être sûrement des choses à corriger plus tard, etc.
Mais je suis désolé, ça fait pas prompt quand tu t'appelles Google.
Non.
C'est comme si Sony et Microsoft
faisaient
un truc comme ça.
Mais c'est justement le problème, c'est que Google n'est pas directement une entreprise de jeux vidéo.
Non, mais Microsoft n'était pas non plus au début.
Non, bien sûr. Mais
ils n'ont pas fait les trucs comme
ça. Ils sont arrivés avec un Xbox Live qui était nickel.
Voilà,
exactement.
Ils sont pas arrivés à l'arrache. Oh, en fait, on va lancer ça, mais on ne sait pas si ça marche.
Mais quand tu t'intéresses un petit peu à toutes ces entreprises des GAFA ces dernières années, leur politique, leur stratégie, que ça soit Google ou même Facebook, on apprend souvent de la part des insiders que les projets sont un peu comme ça jetés en l'air, et qu'il n'y a pas vraiment, tu le vois, hein, avec Facebook qui voulait se lancer dans la banque avant, heureusement, de se faire contrer par l'État américain, etc.
Faire de la crypto-monnaie, là, ou je sais pas quoi.
Je sais pas, c'est la manière de faire à la Silicon Valley, quoi. On lance les idées en l'air, on a du pognon illimité, on met dessus, puis on voit si ça perce ou pas. Quoi.
On voit si ça tombe du bon côté. Donc voilà, ça fait comme deux semaines de suite qu'il y a un fail pour Google, là, donc ça commence à faire beaucoup.
On aimerait bien qu'il passe en win un jour.
Exactement.
Qu'il nous fasse rêver. Avec le test, il sera pas en fail encore la semaine prochaine.
Possible, parce que Camille il est dessus et pour l'instant c'est pas la fête, hein. Mais justement là, tous ceux qui bossent sur Google Stadia, ils sont en train de savoir ce qu'on trouve qui ne va pas, etc. Il y a beaucoup de choses, quoi. Et donc vous le saurez bien entendu avec le test que Camille vous prépare, et effectivement c'est pas folichon pour l'instant, hein. Donc on sait pas, ça se trouve dans deux ans ça va être les notes du monde, hein, mais pour l'instant
aujourd'hui...
en tout cas c'est on vous le conseillerait pas. Après attendons le test, on verra s'il y a des surprises à l'arrivée, mais pour l'instant c'est pas terrible. Voilà, donc c'était pour le fail de la semaine une fois de plus, Stadia, désolé, mais bon, va falloir mieux faire la prochaine fois. Tout de suite on va passer à la rubrique il y a 10 ans sur Gameblog. Et donc, mon cher Plume, il y a 10 ans sur Gameblog.
Et oui, mon cher Trasom. Alors, il y a 10 ans.
Qu'est-ce qui s'est
passé? Eh ben, il se passait des choses pas très drôles.
C'est vrai.
Il y a 10 ans, on va commencer avec.
Pas très catholique, tu veux
cette
dire.
Cette première news qui appellera la deuxième d'ailleurs. C'était Electronic Arts qui licenciait 1500 personnes.
Ouais.
Tout simplement 1500 personnes.
C'est ta faute, ça.
C'était juste après l'acquisition de Playfish, donc fin de l'année de 2009. Et c'était quelque chose d'assez immense.
Remarquez que j'ai bossé un 11 novembre, hein, quand même.
Bah bravo,
félicitations,
tu veux une médaille.
Bravo.
Bah, je veux une médaille, ouais.
Ouais, bah je sais pas, elle doit être sur un bureau quelque part par là. Donc il y avait pour le 31 mars 2010, des licenciements prévus par la société, donc pour faire des économies à hauteur de 100 millions de dollars par an pour les années suivantes. Et ça a dû couper dans pas mal de studios, malheureusement. Et ça a aussi, comme tu nous l'apprenais avec cette news. Et pour cause, ils ne furent jamais annoncés. Pourquoi ? Parce que, bien, tout simplement, il y avait 12 projets de jeux qui ont été tout simplement sabrés dans le processus. Ce qui était quand même assez colossal pour l'époque. On peut dire que EA s'est un peu mieux redressé par la suite, notamment grâce à FIFA et son fut, qui ont permis de faire rentrer pas mal d'argent. Mais il faut quand même se souvenir que chez certaines entreprises, notamment Blizzard Activision, enfin Activision Blizzard, qui aussi a dû se séparer ou est en train de se séparer de 800-900 personnes environ, des fois quand ça se passe mal, bah ça se passe très mal, mais c'est surtout à l'échelle des travailleurs.
Exactement.
Ceux qui écrivent.
Ceux qui écrivent. Exactement. Ceux qui bossent dans l'ombre.
Ouais. Et du coup, la deuxième news,
oui,
qui elle datait d'un poil après.
Ça a impacté directement le studio.
Exactement, c'était le Pandemic. Le studio Pandemic, celui qui était à l'origine des Star Wars Battlefront, qui a sorti Full Spectrum Warrior. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre ? Eh bien, ils sortaient The Saboteur, en fait, en novembre 2019. Et quelques jours avant la sortie de The Saboteur, ce jeu où on incarnait un résistant irlandais à l'intérieur d'un Paris noir et blanc qui se colorisait au fur et à mesure qu'on le libérait, où la Normandie se trouvait à 10 km, même pas.
Exactement.
C'était assez surréaliste, la carte de Paris.
Et donc, Pandemic, eh bien, il y avait d'abord une rumeur selon laquelle, et ça c'était l'objet de la news, selon laquelle Pandemic allait fermer dans les mois qui viennent, qui avait déjà subi quelque chose comme 200 employés en moins dans la foulée. Quelques heures plus tard, après que tu aies fait cette news, tu as fait la mise à jour et tu as confirmé par le biais de Kotaku qu'en fait c'était plus qu'une rumeur, c'était devenu une réalité.
Une réalité.
Voilà. Et tu espérais que le jeu ne serait pas saboté. Voilà.
Exact.
Et tu disais facile, je sais, honte à moi. Voilà, il faut toujours parler des fins de tes articles. Donc ils ont fermé le 17 novembre 2009, juste avant la sortie de Saboteur, et c'était plutôt triste. On leur devait aussi Mercenaries, qui était une série pas trop mal, mais pas top quand même.
Tout
bref. Troisième news d'il y a 10 ans, ça concerne Ken Kutaragi.
Ah, ce bon vieux Ken.
Voilà, celui qu'on appelle.
Je pense qu'il est devenu d'ailleurs, tiens.
Alors, c'est peut-être l'objet de ce.
Le Pandemic, pour revenir dessus,
non, c'est plus,
on est un peu, on va parler de Star Wars et tout aujourd'hui, ouais. Ils étaient sur un Star Wars, je crois, au moment où ils ont fermé le Battlefront 3,
ouais,
dont des visuels ont fuité.
Ah, des vidéos aussi.
Il n'y a pas si longtemps que ça.
Ouais. Passé, ouais.
Il y avait aussi des extraits de gameplay. Du Dark Obi-Wan, des trucs
absolument
comme ça.
Enfin, du bref, Darknet. Voilà.
Ouais, voilà, ça aurait dû être
ce jeu que j'ai attendu pendant des milliers d'années qui n'est jamais arrivé. On a eu suite 10 à la place.
Il y a 5000 ans.
Ah oui, on devait avoir Dark Obi-Wan, Dark Luke, etc. Ça devait être
cool.
Ça aurait été pas mal. Mais c'est pas arrivé. Troisième news, donc ça concerne Ken Kutaragi, celui qu'on appelle le papa de la PlayStation.
Exact.
Qui avait été, on peut dire remercié, mais en tout cas écarté,
oui,
de son poste de patron de PlayStation quelques mois auparavant. Et bien, on apprenait que, tout simplement, il allait ouvrir une nouvelle société.
Mm-hmm.
Et ouais, une nouvelle société qui s'appelle AI Cyber Entertainment, qui a ouvert en fait à la fin du mois d'octobre et qui devait mettre l'accent sur la recherche, le développement en matière de traitement de l'information en ciblant les recherches sur la technologie réseau de pointe. Et bien aujourd'hui, je peux vous le dire, on n'a aucune nouvelle de Ken Kutaragi, voilà.
En fait, c'était tout simplement. C'était du vent, son truc.
Et ben, je sais pas si c'est du vent, ça se trouve, il bosse vraiment, en tout cas.
Je pense qu'il a pris sa retraite.
La page LinkedIn.
Dans le cloud.
La page LinkedIn de la société existe toujours.
Ah ouais.
Il y a des points d'interrogation partout.
D'accord.
Et on sait qu'elle est
c'est
au Japon.
C'est encore japonais, ça, peut-être, non?
Non, c'est des points d'interrogation. Je crois. J'espère. Et donc, du coup, on n'a toujours aucune nouvelle de Ken Kutaragi. Si quelqu'un a aperçu Ken Kutaragi, qu'il appelle le numéro vert en bas de l'écran, et qui nous disent ce qu'il est devenu, parce que c'est vrai que on a absolument aucune nouvelle de lui et que AI Cyber Entertainment n'a pas spécialement fait parler de lui depuis 2009.
Ça fait 10 ans en fait, on ne sait pas du tout ce qu'il a fait.
Et voilà, et donc ça termine
tout ce temps.
Et bon. Évidemment, si on doit conclure cette news, il faudra citer ce oh, vous savez, parfois dans la vie actuelle, hein, ce que j'en pense, monseigneur.
Voilà, exactement.
Traz, voilà.
Que tout le monde m'a copié depuis.
Absolument.
J'avais 10 ans d'avance sur vous.
Absolument. Comme
parfait.
Sur toutes les vannes.
Exactement. Mmh. Voilà, c'était il y a 10 ans sur Gameblog. Bah, écoutez, on apprend plein de choses. Hein. Donc, si vous avez des news sur Kutaragi, n'hésitez pas.
Ouais. Si vous avez une photo, un selfie, n'importe voilà. quoi.
Même une photo volée, on s'en
fout. Ça se trouve, comme dit Tiger, il a ouvert un kebab. Hein. Ça se trouve.
Avec Kazirai.
Avec Faudel. Avec Faudel dans le 18ème. Là, ils
un
ont
kebab
tous les deux leur.
Végétarien.
Ouais, ça se trouve.
Comme dirait Jésus.
Bien sûr.
Eh bien, il est temps, chers amis, de passer au thème numéro 1 de ce podcast 513. Et c'est un gros morceau qu'on va vous donner tout de suite à manger. Bah si quand même. Attends, Plume, non mais tu vas pas commencer à... Hein
oh, bon, putain, un gros morceau, un gros morceau, exagérons.
Vous
rien.
Avez compris, on va parler du X19.
Ah oui.
Où Plume a été à Londres donc pour voir tous les jeux, faire des vidéos que vous avez...
Bah on était, il fallait se rendre à l'événement pour le couvrir parce
exactement.
Que c'était annoncé comme étant le plus gros Inside Xbox
de toute l'histoire de l'humanité.
Et
alors de ton point de vue, est-ce que c'était le cas ou pas? Enfin, de notre point de vue, nous, oui. A priori.
Bah, écoute,
parce qu'il était bien structuré, bien.
Si on doit parler du Inside Xbox en lui-même,
un site Xbox.
On va faire simple, effectivement, c'est costaud. Mais j'ai envie de dire, c'est costaud comme à chaque fois avec Xbox ces dernières années. C'est-à-dire que oui, on a des annonces. On a Everwild, le prochain Rare, qui est toujours en pré-prod et dont on sait rien. On a Tell Me Why, qui est le prochain Dontnod, qui est fait par une autre équipe.
Bah ça, on a le temps
que
de
celle
voir,
de
pense,
Life is Strange. Bah c'est cet été. Ça sera pour cet été
2020. Ah oui, je me souvenais plus.
On a Tell Me Why donc, et on a Grounded, qui est le nouveau jeu d'Obsidian, sur lequel je vais revenir après, parce que je suis pas.
T'as pas l'air emballé plus que ça, j'ai l'impression.
C'est surtout que je suis très surpris.
Oh, le design, c'est.
je trouve ça sympathique, mais bon.
Je suis profondément surpris par ça. Alors ils ont commencé avec Jedi Fallen Order qui sortait le lendemain, ce qui était un joli clin d'œil par rapport à ce jeu qui était très attendu et que la presse n'avait même pas entre les mains. Quoi que je sais pas, vous l'aviez reçu le jeudi soir ou pas?
De quoi?
Le Jedi Fallen Order officiellement?
Non, on l'a acheté.
Ouais, nous on l'a acheté, mais on l'a pas reçu officiellement.
On l'a reçu
le jour de la
sortie. Peut-être reçu vendredi, ouais.
Donc le 15. Donc on commence avec du Jedi Fallen Order et ensuite c'est vrai que ça a enchaîné pas mal de vidéos, de reportages aussi, qui étaient assez intéressants. Il y a eu du gameplay, notamment pour Age of Empires 4, qui est quand même pour les fans de RTS un comme là on peut le dire vraiment un gros morceau parce que c'est une vraie légende du jeu. Il y avait le 2 qui était sorti quelques jours, le 2 en remastered qui est sorti quelques jours auparavant. Donc de ce côté-là, on est servi. En plus, ça a l'air.
Qu'est-ce que c'est beau.
Plutôt ravissant.
Ça m'énerve de pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas ce genre de jeu, c'est que je suis nul à ce genre de jeu. Bon, là, j'aimerais tellement être bon pour jouer à ça. Regardez comment ça tue.
Là, c'est pas les trucs les plus violents.
Ah, mais moi, j'aime bien, moi, je trouve ça tellement beau.
Et donc, Age of Empires, évidemment, il fallait remontrer Flight Simulator.
C'était prête le clou du spectacle, c'est plus.
Non, mais je pense que si on
comme les trois derniers, hein, c'est le jeu qui a bluffé tout le monde encore une fois.
Bah, c'est quand vous voyez les images, vous vous dites c'est pas possible, c'est du délire.
C'est du foutage de gueule, ils se foutent de nous, ça existe pas.
Bah, en fait, si, ça existe.
Faut 4 PC.
Je vous le redis au cas où, mais il y a des impressions que j'ai faites depuis la Copperbox Arena où on était. Et c'est exactement.
C'est vraiment
ça.
Aussi bluffant que ce qu'on voit, quoi.
Exactement. Et encore, hein, eux, ils me disaient qu'ils étaient sur des. On n'a pas eu le droit de filmer les écrans quand on était là-bas. Il me disait que c'était un peu downgradé par rapport à ce qu'on avait.
Ah ouais.
Parce que c'était pas des PC de cinglés qui étaient sur place. Mais même là, tu te dis, c'est pas possible.
Le truc,
c'est du délire. Et comme je vous le disais aussi dans la vidéo, ce qui est vraiment mais extraordinaire, c'est qu'eux, ils arrivent, disent, attends, on va te mettre la nuit, attends, on va te mettre un peu de pluie et tout. Et c'est juste une réglette, quoi. Une réglette en temps réel, ils te mettent les trucs comme ça. Et toi, tu fais, et tu vois les effets qui t'arrivent sur la gueule comme ça. Et c'est vrai que c'est totalement, totalement ouf. Et je pense que c'est vraiment le point culminant, ouais, de ce Inside Xbox. Après, on a vu aussi du Wasteland 3. On a eu des confirmations avec plein d'autres jeux comme Bleeding Edge qui était encore une fois sur place. On a aussi eu l'annonce de West of Dead, qui est un petit jeu indé édité par Raw Fury auquel j'ai pu m'essayer aussi, qui a l'air vraiment vraiment sympa. Il y a eu des annonces où là ils ont vraiment voulu dire le marché asiatique, oui, on en veut. J'en veux Joe et
avec Square Enix notamment.
Avec Square Enix qui quand même a été largement investi pour le Game Pass, sur lequel je vais revenir aussi juste après, parce que j'ai moins suivi pour le Game Pass, mais j'ai vu pas mal de bons
trucs. C'est de la folie. Hein. Là, les trois mois qui arrivent, c'est de la folie. Ouais.
On va en parler juste après.
Il faut tout pour que les gens adhèrent. Hein, de toute façon,
Le Japon avec les Yakuza, quand même, les trois premiers Yakuza, avec Kingdom Hearts, les anciens Kingdom Hearts qui arrivent sur Xbox, qui est quand même déjà un sacré coup de tonnerre. Mais alors surtout du Final Fantasy, si j'ai bien capté, hein, du 7 jusqu'au 15.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire tous les Final Fantasy de
solo
post Super Nintendo, sauf les online, qui arrivent sur Xbox One.
Tous ceux qui ont été réédités avec des trophées de succès.
Juste pour toi, voilà. En plus.
Exactement.
Tu vas tout te refaire.
Ça, c'est quand même assez dément. On parle
du
pas 7 au 15,
effectivement. Je les ai sous les yeux.
On parle aussi de jeux qui carburent dans d'autres pays que le Japon, notamment Crossfire X, qui est un jeu développé en collaboration avec Remedy Entertainment pour la partie solo, qui lui va élargir, je pense, le public Xbox, mais largement, surtout en Chine, où la popularité de Crossfire est assez importante. La Corée aussi qui était visée avec Kart Rider Drift, qui a été annoncé sur Xbox One pour l'année prochaine, qu'entrera en phase de bêta début décembre, et qui est une espèce de mini Mario Kart, mais qui a un gameplay très PC et qui est très orienté e-sport. D'ailleurs, il y avait des joueurs e-sport pendant cette Inside Xbox qui ont montré leur talent. Et moi, quand j'ai essayé le jeu, je vous le dis tout de suite, c'est déjà, j'avais l'impression que le jeu était lent, et après, j'arrivais pas du tout à déraper comme eux. Donc, ça fait une espèce de, on sent qu'il y a une volonté d'expansion. Vraiment de Xbox sur les autres territoires, de toucher absolument à tous les genres. Là, dites-moi quel genre est pas couvert par Xbox ces dernières années.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de
Je sais pas, franchement je vois pas.
Le shoot'em up.
Non, ouais, mais shoot'em up c'est quand même assez particulier.
Ouais,
c'est
et encore.
Les indés qui font ça.
Et voilà, et point de vue indé, pareil, il y avait une blinde de trucs. Pour revenir plus à l'événement lui-même qui était très bien organisé, je vous le disais, dans la Copperbox Arena, qui est un ancien site olympique de Londres de 2012, qui est très grand, très vaste, et il y avait, vous le voyez en image, il y avait cette grande scène, donc avec en face des gradins, et autour vraiment un nombre assez important de bornes sur lesquelles on pouvait vraiment essayer tout ce qu'on voulait. Il y avait la place pour circuler. Bon, il n'y avait pas trop de monde pour le jour presse et le vendredi avant de partir. Il n'y avait pas des masses non plus, ce qui est un peu normal en même temps. On était en semaine, mais il y avait la place pour que les gens puissent circuler tranquillement. Il y avait plutôt une bonne ambiance. Il y avait aussi Dragon Ball Kakarot, Dragon Ball Z Kakarot qui était aussi juste là. Il y en avait pour tout le monde. Voilà, il y en avait vraiment pour tout le monde. Et on va revenir au Game Pass. C'est assez délirant tout ce qu'ils ont fait avec le Game Pass.
Dans les annonces, mon
Dieu,
quoi.
Ont balancé une purée bien dense, bien épaisse, qui fait on se retrouve avec des jeux comme My Friend Pedro qu'on a pu voir, mais aussi des jeux qui vont sortir Day One sur le Game Pass
exact.
Qui sont des jeux importants pour Microsoft, notamment Minecraft Dungeons évidemment ou Tell Me Why, mais aussi il y a des jeux tiers que j'aurais jamais imaginé arriver sur le Game Pass, comme The Witcher 3 par exemple. C'est pas du tout le genre de jeu que je me disais, c'est des projects, ouais, ils vont accepter que leur jeu soit dans un truc d'abonnement.
En même temps, ça fait quelques années déjà qu'il
est sorti. Ils l'ont proposé quand même à toutes les sauces
un peu partout. Il a été beaucoup en solde sur GOG, Steam,
justement,
etc.
Justement, je pense que là, ils l'ont tellement rincé qu'ils sont dit allez.
Mais là, sur le Game Pass, j'avoue que... Ça fait quelque chose.
Ah, il était déjà proposé à l'époque de la console Nvidia, dont j'ai oublié le nom, mais qui te permet justement comme
la
Stadia.
La Shield, ouais.
Voilà, il était déjà proposé.
Au lancement,
il était proposé.
Oh, il a dû être proposé aussi avec des cartes graphiques à l'époque.
Tout à fait. Ouais,
mais là, dans un Game Pass, j'avoue que c'était le truc qui m'a le plus.
Mais oui, c'est un énorme morceau. Ouais, pour le Game Pass, c'est très très cool. Hein.
Et ça augure vraiment pour le. Ah oui, puis il y avait Halo Reach aussi qui arrive dans la Master Chief Collection.
Et ton ami Pedro aussi.
Darksiders 3. Non, il y a pas mal de truc vraiment.
C'est vrai que là il y a de quoi faire, hein, franchement.
Il y a énormément de choses à voir et à manger.
Surtout qu'il y a toujours le bon plan de trucs à 2€ sur Game Pass.
Je sais pas si c'est encore le cas. Encore
mais alors moi je suis en train de manger plein de trésors de Kellogg's pour récupérer les coffres dans les boîtes.
Non mais ça se cumule.
T'as le droit de cumuler jusqu'à un mois.
Ah d'accord, ok.
Voilà.
Ah ouais, quand même.
Donc d'accord. T'as le droit de t'acheter 4 boîtes de trésors pour avoir un mois gratuit.
D'accord, ok. C'est pas con.
Et donc ouais, ça augure d'une année 2020 qui devrait être pas mal déjà pour la Xbox One. Alors peut-être le gros défaut de l'événement, mais ils peuvent pas non plus balancer leurs cartouches aussi rapidement, c'est que Scarlett n'était pas là.
Oui.
Voilà.
Bon,
donc
ça l'avais dit de toute façon, mais bon.
Ça c'est le truc où tu peux.
C'est vrai que ça aurait pu être la cerise sur le gâteau, tu sais, tout à la fin du Inside.
Mais là, ils voulaient vraiment.
Regarde, regarder.
Il voulait vraiment se concentrer, je pense, sur les 6 premiers mois de l'année 2020. Mmh. J'ai pu avoir quelques questions vraiment très rapidement avec Matt Boutti, qui est le patron de Xbox Game Studio, qui a bien insisté sur le fait que d'abord il fallait voir le line-up de début 2020 qui était vraiment impressionnant, mais que pour la suite ça allait pas faiblir. Et à mon avis, les mecs de chez Xbox, ils doivent nous préparer un E3 bien bien méchant,
bien costaud, ouais.
Parce que il a beaucoup insisté, un peu comme Jim Ryan dans ses différentes interviews, il a beaucoup insisté sur le rythme auquel il fallait sortir des jeux internes de Xbox, et comme
first,
ils ont
first party, donc
15 studios, il y a possibilité qu'ils respectent vraiment une bonne fenêtre pour réussir à faire quelque chose de sympa. Bon, après, je vous le dis, Grounded, ce sera pas le jeu qui va, moi en tout cas, vraiment fonctionner sur moi. J'attendais pas du tout Obsidian dans un jeu de survie. Alors oui, le cadre, chérie, j'ai rétréci les gosses.
Ça peut être rigolo quand même.
Ça peut être rigolo, mais j'avoue que...
Ça change quoi.
S'il y a un truc que je regrette assez quand même par rapport à cette Inside Xbox et même tout ce qu'on a pu voir là-bas, c'est que ça reste beaucoup de jeux qui sont des offres multijoueurs, coopératives, avec des formules qu'on connaît un peu quand même, et que où est la killer app en fait.
C'est ça en fait. C'est peut-être Grounded.
Mais je sais pas.
Il était pas jouable celui-là.
Si, j'y ai joué pendant la démo durait 12 minutes.
D'accord. Ah oui, bon, il était vraiment jouable.
Je sais pas si on peut parler de Killer App, mais c'est vrai quand même le retour, que ce soit de Flight Simulator ou Edge of Empire 4, moi je trouve ça vraiment énorme. Et
c'est cool.
C'est la qualité aussi générale de cet événement, c'est de proposer en effet des nouveautés, le Game Pass, des trucs très modernes, et en même temps de s'appuyer sur des licences
sur
Microsoft
licences,
qui sont extrêmement fortes.
Mais est-ce qu'elles sont
restées endormies depuis longtemps?
Est-ce que si je te dis, c'est quoi le God of War de Microsoft?
Bah c'est ça, c'est Grounded.
Non mais
oui, non, bien sûr,
voilà.
En termes d'équipe,
le truc Master Chief, le truc qui tape, ouais, mais Master Chief Collection, c'est un truc qui existe depuis un moment et on n'a pas eu de nouvelles de Halo Infinite. En d'ailleurs, on aura le 3 pour la Scarlet.
Mais Plume, tu sais bien qu'il garde des cartouches pour la Scarlet.
Ouais, mais bon, tu sais, quand tu fais un
forcément
événement, moi pour un événement comme ça, je m'attendais quand même à, alors oui, Everwild c'est cool, mais encore une fois, on n'a rien vu et on sait que le jeu n'est qu'en pré-prod, donc bon, moi je reste un peu mitigé sur certaines choses.
Tu viens quand tu veux.
Mais après, sur le reste, faut être sérieux.
Faut savoir raison garder, c'est ça.
Faut être sérieux, c'est quand même ultra solide.
Ben, bien sûr.
Et il y a vraiment rien de décevant. Et je parle même pas du Project X Cloud qui est encore prêt, lui aussi, à dégainer quelque chose de monstrueux et qui est en train de piétiner Stadia allègrement, parce que lui, il a plus de 50 jeux prévus pour.
Ouais.
Pour son lancement.
Et puis ils ont bien peaufiné le lancement, ils n'ont pas fait comme ça.
La technologie fonctionne assez bien. Donc, ouais, franchement, avant Scarlett, déjà, Microsoft, ils peuvent bomber le torse sans problème. Ça devrait bien se passer. Mais c'est vrai que maintenant, j'attends le. En ce qui me concerne, j'attends vraiment qu'on arrive
dans
le vif du sujet. Oui.
Franchement, il y a un côté zeldien.
Oui, mais tu sais, moi, rare, je les préfère quand ils me font rire.
C'est vrai? Bah quoi si tu veux.
Voilà.
Je sais pas, moi je trouve que c'est un line-up très solide, il y a plein de choses intéressantes et.
Ah mais complètement, ouais.
Je pense qu'ils ont volé les shows, je dirais là-bas. Même Sony a pas réussi à les avoir.
Mais c'était pas là.
Ah ouais? Ah merde. Bon bah
c'était pas le 3 en fait. Hein.
C'est peut-être pour ça en fait. Bah c'était quand même un mini E3, hein, mine de rien. Bah,
pour celui qui était.
Un mini E3.
Pour celui qui est tout seul là-bas, oui, c'est un mini E3.
Ouais. Quand même port, ouais.
Je préfère te le dire. Mais bref. Voilà, si dans la plupart des trucs qui nous ont montré, il y a des choses très intéressantes. Mmh. Et je pense que vous ne serez pas déçus si vous vous jetez dessus, surtout avec le Game Pass, dans les mois qui viennent.
Parfait, parfait. Bah écoute, alors toi, sinon juste pour finir, c'est quoi le jeu qui t'a le plus impressionné là-bas à part...
Oh là là, c'est dur.
Non mais à part...
Oh, je sais pas, franchement, attends, laisse-moi réfléchir. Je vois pas.
Vraiment, pour toi, c'est celui-là.
C'est, non mais Flight Simulator. Après, en termes de jeu, je sais pas ce que ça va donner, puisque... La partie ludique en elle-même n'est pas spécialement décrite, ouais. Et ça va rester un simulateur
c'est un peu
de vol.
Chiant, quoi.
Mais oui, mais imagine.
Tu décolles, tu pilotes
des images
automatique
là,
pendant 3 heures. Et après,
imagine que tu peux faire le tour du monde.
En
et vraiment.
Jours.
Et Tiger, C'est de quoi je parle.
Je suis fan,
le tour du monde, lui, il l'a fait.
Ouais, mais avec zéro pollution, là, on pollue pas.
Avec zéro pognon aussi.
Bah, si, il faut acheter le jeu quand même.
Là, tu.
Faut avoir un PC.
Tu veux dire, il y a des personnes qui sont peut-être pas en capacité de faire un tour du monde dans leur vie.
Dans la vraie vie réelle.
Et là.
Faire un avion sans jamais descendre de l'avion.
Exactement.
Et là, tu vois des trucs. Enfin, je veux dire, t'as une reproduction de la Terre qui est ultra fidèle, avec une technologie derrière que je vais laisser le Sébastien Vlor, le gérant d'Asobo, vous expliquer dans l'interview, qui est peut-être paru, je sais pas encore, mais qui va, si c'est pas le cas, elle va pas tarder. C'est tout simplement, enfin, j'ai pris une mandale, quoi. C'est, tu joues à ça, t'as plus envie de descendre. Mmh. Et c'est pas aussi,
c'est pas aussi compliqué à manipuler tout
si.
Ça que sur un vrai.
Justement, j'allais dire, c'est pas aussi simple que ce qu'on croit.
Okay.
Parce que j'avais tout ce qu'il fallait.
Il y a quand même tout l'attirail du cockpit qu'il faut savoir gérer, etc. Quoi.
Ah oui, puis t'as toutes les forces contre lesquelles tu dois lutter.
D'accord.
Que ce soit le.
Oui, donc c'est quand même très réaliste.
T'as eu l'occasion justement de jouer avec du matériel dédié,
oui.
Des manches et tout.
Ah oui, j'avais un manche. Ils m'ont mis une assistance quand même assez importante, mais j'avais un manche et un pédalier pour essayer de justement de maintenir
le roulis.
Alors quand j'ai fait un décollage, je vous dis tout de suite.
Non,
je me suis pas scratché. Par contre, je partais vers la gauche, mais tout le temps, quoi. C'était assez. Mon décollage était vraiment ridicule. On aurait dit.
Parce que t'as pas mis la même puissance.
On aurait dit Flagada Jones.
D'ailleurs, on peut se scratcher et tout dans le jeu ou pas?
Se cracher.
Alors, je vais pas essayer. J'ose pas.
Se cracher la gueule.
J'ose pas.
Se cracher.
J'ose pas essayer ce genre de choses. J'aime pas trop l'avion. J'aime pas.
T'aurais dû essayer pour voir si c'était bien fait.
Non, messieurs. Pauvre. Donc, Flight Simulator, évidemment, ouais, c'est le truc qui m'a le plus impressionné.
Imagine ça en réalité virtuelle, ça doit être complètement fou.
Ils ont
prévu, je pense qu'ils vont y penser. Ouais.
Non, mais c'est sûr. Ils avaient fait un.
Ça va être extraordinaire. Hein. En VR, ça va être extraordinaire.
Un billet pour expliquer qu'ils y songeaient après avoir réussi à
changer vraiment beaucoup de choses.
Avoir les mêmes graphismes, la même profondeur de champ.
C'est surtout réussir à mobiliser les forces en présence chez Asobo et chez Microsoft,
les forces de l'esprit,
pour réussir à ce que ce soit prêt et vraiment aller peut-être plus loin que juste un casque avec 3D stéréoscopique.
Tu perds à 4K aussi, c'est con.
Mais
si
ouais,
t'as un écran 4K,
mais tu peux peut-être gagner en maniabilité. Imaginons que tu fasses ça avec des avec l'Oculus Quest par exemple.
Ah bah pour l'immersion, c'est sûr que ça
qui lui a maintenant une reconnaissance
des mains et des pieds.
Donc tu peux peut-être te faire des trucs plutôt sympas.
Tu peux même t'affranchir du gros matos, du gros style.
Ah bah oui,
un petit joue dans un Paris Los Angeles tranquille.
Hein. T'imagines.
Inception.
Bah après voilà, c'est le truc qui m'a le plus impressionné, c'est normal. Dans les autres jeux, alors je sais qu'il y a Wasteland 3 qui était là-bas, malheureusement, ne connaissant pas du tout la licence, n'y ayant jamais joué, j'ai pas osé m'aventurer. Je sais que les fans vont probablement adorer, mais
les fans, tu veux dire.
Mais je préfère laisser.
C'est de la suite non officielle de Fallout.
Bah c'est en fait, Westland est sorti avant Fallout.
Ouais.
Techniquement.
Donc
le 3.
Le Westland 3. C'est un univers post-apo aussi.
Ouais.
Mais cette licence, elle était morte depuis combien de temps? Enfin, elle était sous.
Bon, elle est restée 15 ans.
Depuis
15 ans endormie.
Ah ouais.
Westland 2 est sorti grâce à Kickstarter. Et puis bah voilà.
C'est énorme quand même pour une licence d'être réveillé 15 ans après.
Tu sais, il y a Shenmue 3 qui sort là.
Oui, mais bon, c'est sûr.
Et puis ils ont 15 studios quoi, donc
ouais.
Ils peuvent ressortir les vieilles licences quoi.
Ouais, In Exile donc.
Tout le monde le fait, pourquoi pas eux.
In Exile qui nous sort ça et ça a l'air encore très bien. Une
c'est
Johnny
Watt qui a nul testé, comme d'hab.
Bah, je sais pas qui avait testé Wasteland 2 chez nous. C'était toi
ou c'était Camille? Non, c'était Camille, je pense.
Donc voilà. Donc je préfère laisser les spécialistes parler, d'autant plus que c'est du tactical, donc évitons un
non,
peu.
C'est bien qu'ils ressortent ça quoi. C'est
ah oui, c'est vrai que j'avais pensé que j'ai aussi joué au jeu de Swery, The Good Life.
Génial.
Non, pas pour l'instant. C'est pas
ah oui, mais
le
GG était très bien.
C'est pas le moment de le montrer.
T'as un petit coup de The Good Life, Poufy ou pas? Si t'as ça sous la main. Non, t'as pas. Bon, c'est pas grave.
Bah, c'est pas très grave.
J'en profite pour rappeler à votre bonne mémoire. Gigi McField and the Highland of Memories, qui était très bien.
Voilà. Je sais pas ce que c'est.
Ah, tu veux dire
son petit
le
jeu
perdu.
Qui a sorti ouais, voilà, le manquant.
Le manquant. Voilà.
Ah, le manquant.
The Missing.
Le fameux.
Donc
voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur le X19. Après, il y a tout sur le site, hein, toutes les vidéos, les impressions.
Exactement, et des interviews.
Les trailers,
aussi, hein.
Et les interviews qui arrivent ou qui sont arrivées.
Ouais, donc cette interview de Sébastien Vlor pour Asobo, interview de Matt Booty, enfin interview, voilà, 5 questions à Matt Booty.
Ouais,
à Matt
ils
Booty,
t'ont un peu pressé.
Beaucoup.
Il y a beaucoup de monde. Hein.
De Matt Booty, donc le head of Xbox Game Studio. On a interview de Florent Guillaume, qui est le game director de Tell Me Why, et ça fait déjà pas mal de monde.
Oui, c'est très bien, hein, c'est très bien.
Ça fait déjà.
Ça très bien pour un petit event comme ça. Il y avait quand même pas beaucoup de choses à montrer et des choses à dire. Donc,
exactement.
Donc voilà. Écoute, merci beaucoup Plume pour ce thème number one, donc qui était sur dédié au XO19 que vous avez pu suivre en direct sur Gameblog. On passe au thème numéro 2 avec Tigre Souple, Tiger, qui va nous parler lui d'un jeu que tout le monde attendait depuis 200 millions d'années. Pokémon Bouclier Épée, que tu as pu tester.
Depuis l'an dernier,
un duo de jeux.
Oui, si tu veux.
Comme à chaque fois.
Je connais tellement rien en Pokémon, moi, que de toute façon, je vais vous laisser parler.
On va en discuter.
C'est vraiment pas ma tasse de thé.
T'éclairer un peu plus.
Mais il a l'air de vraiment bien changer ce Pokémon par rapport aux autres, quand même, non ?
Non, Game Freak a menti.
Ah. Eh ben on va expliquer tout ça.
Justement, tu vas nous expliquer tout ça.
Décortiquer.
Pas de vrai renouveau, la formule reste essentiellement attachée à ses bases, pour le mieux.
Donc ouais, Pokémon Épée et Bouclier, le nouveau duo de jeux Pokémon, hein, c'est pas une nouveauté, vous le savez, à chaque fois ça sort par deux pour pouvoir échanger les Pokémon et il y en a certains.
Pour pouvoir te gratter plus de pognon.
tu sais.
Mais pour être bien précis, on va juste refaire un petit point. Évidemment, il s'agit ici de la série canonique, donc entre guillemets, celle qui est développée depuis 1996 sur Game Boy par Game Freak, des jeux Pokémon dans d'autres styles. Il y en a eu, mais évidemment, le micro-événement, la micro-révolution pour cette série très traditionnelle, on reviendra dessus.
La tradition.
C'est que pour la première fois, la convergence enfin s'est faite entre une console de salon Nintendo et Pokémon, qui jusque là a toujours été une expérience portable, pensée pour les consoles portables de Nintendo, même si on a tendance à l'oublier, il y a déjà eu des tentatives. Par exemple sur GameCube, il y avait Pokémon XD qui proposait une aventure en 3D qui était appelée au vœu de nombreux joueurs depuis très longtemps, et c'est à l'occasion du succès de la Nintendo Switch que Pokémon dans sa version canonique, quoi, le canal historique, arrive donc sur une console de salon. Alors avec toujours les idées de base qui sont essentielles à Pokémon liées au jeu portable, ce que permet évidemment la Switch, mais a priori aussi les qualités qu'on peut attendre d'une console de salon, c'est-à-dire une technique au niveau, des Pokémon qui seraient plus mignons, plus impressionnants que jamais. Et c'est là un petit peu que le bât blesse avec ce nouveau duo de Pokémon. Personnellement, moi, je pense que la formule Pokémon, ça fait un petit moment qu'elle tourne en rond déjà. Pour ceux qui espèrent avoir un RPG prenant dans lequel on peut vraiment s'impliquer, il faut savoir quand même, hein, pour ceux qui connaissent pas Pokémon, que depuis 96, la formule de ces jeux-là répond toujours au même déroulé, c'est-à-dire que vous êtes un jeune garçon ou une jeune fille, vous pouvez le choisir, vous pouvez customiser votre apparence à mesure de l'aventure, mais c'est toujours pareil, ça commence dans un petit village, il faut choisir son starter de petites plantes, de petits eau ou de type feu, vous vous retrouvez toujours avec un rival qui au fur et à mesure de l'aventure va pouvoir vous jauger, voilà, Régis dans le premier jeu et maintenant c'est Nabil, voilà le rival, mais c'est vrai que pour certains le problème du récit qui peut toujours être le même ou la mécanique toujours le même n'est pas un problème parce que finalement il joue à Pokémon d'abord pour le combat, d'abord pour la compétition, d'abord pour le multi, pour l'échange, etc. Donc on a pas mal posé la question aussi de savoir si ce nouveau duo de Pokémon était un bon Pokémon pour débuter. Et j'ai envie de dire, d'une certaine manière, comme tous les Pokémon, il est celui qu'il faut prendre, celui de la génération qui arrive, si on veut débuter. Celui-ci a en plus l'avantage d'apporter, heureusement, en 2019 sur Switch, beaucoup plus de confort que les jeux précédents. Comme je vous le disais, c'est une série très traditionnelle Pokémon, et il y a certaines choses qui n'ont jamais bougé au fur et à mesure des épisodes. Par exemple, vous partez toujours avec une équipe de 6 Pokémon, et vous avez les faire combattre pour leur faire gagner des points d'expérience, pour leur faire gagner des niveaux et pour les faire évoluer. Donc dans le plus pur classicisme du JRPG japonais, à la Dragon Quest, dans les premiers Final Fantasy, c'est vraiment ça qu'on retrouve. Et jusqu'à maintenant, par exemple, quand tu avais son équipe de 6, il était impossible pouvoir remplacer ces 6 membres par des Pokémon qu'on aurait attrapés. Il fallait à chaque fois se rendre dans un Pokémon Center pour réorganiser son équipe. Tout ça, c'est terminé. Maintenant, il y a aussi l'XP multiple qui est de base proposé. C'est-à-dire que dans les jeux précédents, il fallait un objet spécial quand on combattait pour que tous vos Pokémon bénéficient des points d'expérience. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, il y a beaucoup de choses quand même qui ont été simplifiées, je dirais. En tout cas, qui donnent plus de confort. Personnellement, je pense que c'est le genre de choses qui aurait dû arriver il y a déjà 10 ans. Mais bon, que voulez-vous, les fans hardcore qui jouent vraiment pour la compétition, ou même pour la complétion, ou qui sont fous de cet univers. Et de toute façon, les chiffres de vente ne vont pas,
ne donnent pas
d'indice contraire à The Pokémon Company ou à Nintendo. Donc ça avance par changement, par petites touches. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai abordé ce premier point en préambule. C'est à mon sens vraiment le fait qu'on est arrivé à une ère de convergence entre une console de salon et un jeu Pokémon qui a fait finalement que l'accueil général par rapport à ce Pokémon a été très mitigé. Parce que évidemment, même si la formule doit garder certains aspects classiques qui seront toujours là, c'était l'occasion de proposer une aventure digne de ce nom qui se renouvelle, et surtout avec des modèles de Pokémon qui auraient été vraiment travaillés pour la Switch. Plume avait publié une news où il nous expliquait que les modèles des Pokémon Pokémon Company à travers la voix de son producteur Junichi Masuda avait expliqué que les modèles seraient inédits. C'est pour ça que le Pokédex, donc le Pokédex c'est le bestiaire, hein, c'est le nombre de Pokémon qu'on trouve dans le jeu, avait été réduit pour cette version. Et en fait, il s'est avéré, après que des fans aient récupéré le jeu et pu aller chercher un peu dans les lignes de commode, que ce n'était pas le cas. On avait des modèles physiques de jeux déjà précédent. 3DS. Alors, évidemment, l'aspect technique, l'aspect technologique, ça a jamais été l'intérêt premier de Pokémon, et les fans sont toujours passés au-delà de ça.
Sinon,
mais là,
je pense que succès qui...
voilà. Mais là, je pense que le fait qu'on arrive sur Switch, qui est une console tellement populaire, et aussi, c'est peut-être l'erreur aussi de communication de Pokémon Company à ce propos, c'est que depuis la sortie, depuis l'annonce des pays boucliers, même si on nous a indiqué que le jeu était en développement avant Pokémon Let's Go Evoli, qui était lui déjà un remake, voilà, donc c'était la première incursion sur une console de salon hybride portable pour Pokémon, mais c'était un remake, donc c'était un peu particulier. On nous l'a présenté un petit peu dans l'esprit de ce qui s'était passé avec Zelda Breath of the Wild, c'est-à-dire une série très traditionnelle. Rappelez-vous, avant Breath of the Wild, le Zelda Wii, où tout le monde avait commencé un petit peu à se redire en se disant bon, Zelda on adore, mais là la formule ça tourne un peu en rond, il y a toujours cette qualité, il y a toujours du plaisir, mais là il y a besoin de quelque chose. Et quand on analyse, et il y a plein de gens qui le font, ce Breath of the Wild qui a été un phare pour l'industrie et qui a vraiment bouleversé la formule, quand on vraiment s'y intéresse, on voit en effet que la formule Zelda a quand même été bien bouleversée, quoi. On a pu vraiment affaire au même jeu, et c'est pas du tout ce qui se passe avec ce Pokémon, malheureusement. Et c'est là où on a été aussi un peu induit en erreur. Alors, il y a quand même un peu plus de liberté qu'avant, en particulier à travers une zone qui s'appelle les Terres Sauvages, dans lesquelles on peut se déplacer librement et aller à la rencontre des Pokémon géants. J'en parlerai tout à l'heure pour terminer sur ce point. Mais si vous êtes joueur depuis longtemps de Pokémon, que vous aviez un peu laissé tomber les derniers épisodes, ou si vous voulez vous y mettre en vous disant bon bah visiblement c'est nouveau, c'est le confort moderne et tout, et ben là pas du tout, parce que les Terres Sauvages c'est quand même une zone très limitée, d'autant plus que dans Pokémon, pour attraper certains types de Pokémon à certains niveaux, vous êtes obligé de faire l'histoire principale, parce qu'en gros quand vous allez défier les différents champions, vous gagnez à chaque fois un badge qui vous permet de progresser dans le jeu, évidemment, dans le récit, mais aussi d'avoir la possibilité de capturer certains Pokémon d'un certain niveau. Et dans cette zone sauvage, vous trouvez des Pokémon très très forts de tous les niveaux, mais en gros, si vous n'avez pas été affronter le champion d'arène, peu importe que vous croisiez ce Rakayu niveau 45, de toute façon vous ne pourrez pas l'attraper. Donc cette liberté, elle est de base bridée. Et elle paraît finalement un peu superficielle, même si, comme on peut le voir dans les visuels, que les vidéos que diffuse Poufy, il y a un soin, hein, la région de Galar, c'est le nouveau pays de ce Pokémon, qui évoque évidemment la Grande-Bretagne, donc il y a un petit côté charmant, mais très vite, Après, ces premiers plans qui sont assez inédits hein, pour la série, il y a des valeurs de plans un peu plus cinématographiques, ça peut faire rire hein, pour les joueurs qui sont pas habitués à Pokémon, mais pour les habitués qui font tous les jeux, il y a quand même une nouveauté à ce sens-là, mais très vite, quand l'histoire commence, on se rend compte que bah on se retrouve de nouveau sur les chemins à arpenter comme d'habitude dans Pokémon, avec les dresseurs qu'on va rencontrer en chemin, jusqu'au champion d'arène, etc. Donc une formule qui ronronne, et là c'était peut-être le moment justement de saisir l'occasion du succès de la Nintendo Switch et de ce qu'elle proposait pour proposer quelque chose de nouveau. Mais comme quand comme avec un studio comme Game Freaks qui tous les ans propose un duo de jeux Pokémon, c'est compliqué de se renouveler. On a pu le dire pour d'autres séries de jeux, par exemple avec Assassin's Creed, où à un moment on avait appelé à dire qu'il fallait peut-être que la série se repose pour revenir, et c'est ce qui s'est passé avec Odyssey et avec Origins. Avant, on a eu une proposition. Là où c'est beaucoup plus compliqué pour la licence Pokémon, c'est que Game Freak, ce n'est pas Ubisoft, ce n'est pas 400 personnes dispersées aux quatre coins du monde qui vont bosser dessus, pas du tout. Game Freak, c'est toujours resté un studio assez familial qui a vu là ses embauches ces dernières années, ces derniers mois de manière exponentielle, mais c'est quand même compliqué quand on est une petite société
et qu'on a Pokémon Company et Nintendo qui sont derrière en train de toquer et de dire ah ouais, mais ça faut pas trop toucher
absolument,
ça tu vas respecter les délais coco
exactement, parce que Pokémon évidemment
c'est une licence super juteuse, donc si tu touches un petit truc tu peux tout faire foirer,
surtout que ce n'est pas qu'un duo de jeux vidéo qui sort tous les ans, c'est toutes les figurines, toutes les pluches, tous les jeux, tous les dessins animés, c'est un écosystème dans lequel la base reste le Pokémon de Game Freak, mais eux ne possèdent pas une équipe démentielle et ils sont tenus à répondre aux obligations des grosses compagnies au-dessus d'eux, quoi. Donc c'est toujours.
Ils sont un petit peu enfermés dans leur propre truc, du coup.
Puis après, les fans, est-ce que les fans veulent vraiment que ça change?
Les fans.
Changer dans le sens vraiment. Tu vois, comme pour Zelda.
Renouveler carrément le truc, quoi.
C'est ça, ouais, absolument.
Parce que quand tu vois les gens, à quel point ils l'attendent, t'as l'impression qu'ils s'en fichent complètement.
Bah, c'est le paradoxe, comme je vous le disais.
Ils veulent du changement, en fait, non.
Moi j'aime beaucoup justement peut-être des fois même l'aspect un peu vieillot de Pokémon qui rappelle en fait des JRPG qu'on pouvait trouver dans les années 90 et d'une certaine manière je reste accroché à ça, mais moi j'avoue sans peine que ça fait quelques années déjà que j'appelais de mes voeux un renouvellement de Pokémon, parce que évidemment, il n'y a pas de question à se poser pour les gens qui produisent ces jeux-là, parce que des enfants, il y en a toujours, et Pokémon, c'est toujours aussi populaire, à chaque fois, c'est un carton. Il faut quand même le dire, même si ce Pokémon a été reçu quand même assez froidement par rapport à d'habitude, même si on n'est pas dans des notes catastrophiques, hein, globalement, la presse considère que c'est un bon jeu, mais qui doit se renouveler, qui n'est pas à la hauteur. Là, en Grande-Bretagne, c'est le troisième meilleur démarrage de l'année, avec FIFA et avec Call of Duty, en sachant en plus que la Grande-Bretagne en général, c'est pas vraiment là où les jeux Nintendo sont forcément, c'est plutôt en Allemagne, en France, en Espagne que les jeux Nintendo sont vraiment très très appréciés. Donc ça continue à fonctionner, mais là, pour la première fois, on a eu un coup d'arrêt, en tout cas de la part des critiques et aussi dans la foulée hein, de la communauté, qui a un peu dit bon, maintenant ça suffit, la formule depuis 96 est un peu la même. C'est on rajoute par petites touches, mais voilà, avec une Switch qui est tellement populaire, qui propose du jeu indé, qui propose des licences Nintendo réinventées, qui propose même maintenant certaines licences éditeurs tiers qu'on n'aurait pas espéré, il fallait que ce Pokémon arrive et qu'on passe à quelque chose de nouveau, et malheureusement ça
est-ce que c'est pas aussi la proximité avec la sortie de Pokémon Let's Go qui peut poser problème, parce que déjà l'année dernière c'était une formule très classique de Pokémon, d'ailleurs on n'attendait pas ça forcément à l'époque.
Ça avait quand même, le remake l'an dernier avait quand même pris la jouabilité de Pokémon Go, non?
Non, il y avait des éléments avec la Pokéball qui était fournie, qui évidemment simplifiait encore les choses, et de toute façon on le constate aussi dans celui-ci, le fait qu'il y ait eu Pokémon Go, ça a obligé quand même Game Freak à justement se réinventer un peu, j'imagine, pour un peu plus d'accessibilité et de confort. Mais le Pokémon Let's Go, évidemment il jouait, il surfait sur le succès de Pokémon Go, mais il il restait tout de même un Pokémon très classique dans les règles de l'art, d'autant plus que c'était plus ou moins un remake de Pokémon Jaune, qui est quand même, si je dis pas de bêtises, le quatrième jeu Pokémon sorti. Donc il y a de ça, c'était en 97, quoi. Donc on pouvait, je pense, enfin, que les fans pouvaient encore le tolérer, le Pokémon Let's Go, d'une certaine manière, parce que c'était un remake, et puis il y avait toute la nostalgie qui allait avec, et puis pour les nouveaux venus, bah voilà, c'était une formule qui était en plus très mignonne, très pensée pour les enfants. Mais là, avec l'arrivée de la Switch, ça se ressent, quoi. Ça sent que Pokémon, c'est un vieux jeu, en fait, et que ça fait trop longtemps qu'il ronronne. Et évidemment, juste pour pas qu'on oublie d'en parler, on le voit depuis tout à l'heure dans les images, une des grosses nouveautés de ce Pokémon, c'est le Dynamax, donc qui permet d'avoir des Pokémon gigantesques. Mais on se rappellera qu'il y a déjà quelques paires de jeux Pokémon, on avait les Ultra Evolution qui permettaient déjà de proposer de nouvelles formes à des Pokémon qu'on connaissait, les rendre plus impressionnants. Le Dynamax, c'est très rigolo, hein. Ça permet de voir des Raichu géants, des Pikachu géants dans des affrontements à la Godzilla, mais un peu plus mignon, forcément.
Bah, la Switch, je peux le faire, quoi. Donc,
Mais voilà, totalement anecdotique, et ça ne rebat pas les cartes, hein. Et c'est l'équation qui va être très compliquée, je pense, dans les prochains mois pour Game Freak, en tout cas. C'est de garder ce qui fait le charme de Pokémon, mais en se réinventant, parce que étant donné le retour qui a été fait par les joueurs, comme pour la presse, sur ce duo de jeu, c'est impossible de proposer un prochain épisode de similaire, quoi. Enfin,
tu peux changer de look.
Et je dis ça même si c'est le meilleur démarrage en Grande-Bretagne. Donc,
voilà. Comme quoi.
les gens veulent pas
de trucs différents, complètement différents.
Vous allez voir, le prochain, ça va être un monde ouvert, ça va être une claque technique, et puis tout le monde.
C'est plus ou moins un monde ouvert.
Je mettrai le feu à des broussailles.
On n'a pas malheureusement. Enfin, ce qui serait intéressant, par exemple, c'est de savoir quels sont les chiffres de vente par rapport aux nouveaux joueurs et aux joueurs anciens, parce que aurait tendance à se dire, et moi c'est ce que je me dis depuis des années, en ayant toujours de la bienveillance, de Pokémon, c'est un univers que j'ai toujours apprécié, mais c'est ce que je me dis depuis plusieurs années, je me dis finalement la machine est tellement rodée et le principe est tellement génial, des enfants il en est toutes les générations, des Pokémon il en est toutes les générations, donc on a l'impression que c'est un mouvement comme ça, cyclique, naturel, et que ça se vend tout seul. Peut-être
qu'il veut toucher les plusieurs générations, justement.
Bah, ça a toujours été été l'ambition.
Ceux qui aiment, ceux qui connaissent depuis 1000 ans, vous y serez pas dépaysés. Et puis les nouveaux, vous allez comprendre facilement.
Mais ça a toujours été, de toute façon, là, tu le vois encore dans les pubs aujourd'hui. Les pubs actuelles qu'on voit à la télévision, on voit tous les Pokémon de toutes les générations qui arrivent dans le jeu, même ce Pikachu comme tel qu'il était sur Game Boy. Ouais. Ça a toujours été le parti pris. Mais est-ce que là, ils vont pas justement laisser de côté un peu les vingtenaires ou trentenaires qui encore ils jouent à fond, et vont peut-être enfin passer à autre chose,
faire une version à super hardcore de Pokémon.
Mais en tout cas, pour résumer tout ça, parce que c'était quand même très dense, si vous êtes un habitué de Pokémon qui attendait du changement, vous risquez évidemment d'être déçu. Après, l'expérience Pokémon reste agréable, mais si ça fait déjà un moment que vous avez l'impression que ça tourne en rond et tout, vous allez être forcément déçu. Si vous n'avez jamais joué à Pokémon, c'est, je pense, le plus confortable, le plus actuel. Mais comme j'ai eu l'occasion, je me rappelle d'une conversation comme ça, par exemple, avec Emeric, que je salue si jamais il nous mimique, Emeric de Gameblog, qui, quand moi je jouais devant lui, hallucinait en fait sur l'aspect rétro du titre. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête si jamais vous ne connaissez pas quand même Pokémon et vous vous y lancez. C'est une série très traditionnelle qui a son héritage pioché chez Dragon Quest, chez les grands noms du JRPG. Et ça, faut être préparé aussi.
Et c'est resté dans son jus.
Resté très tradit, très rigoureux, même s'il y a des aménagements qui sont beaucoup plus confortables aujourd'hui. Mais faut en être bien conscient si vous découvrez la série. Pokémon, c'est des vieilles mécaniques, quoi.
Ok, je vais prendre Pokémon épée alors. Merci.
Très bien.
À plus. Salut.
Tu trouves le canard-artichaut exclusif dans Pokémon.
Ah, canard-artichaut est dedans ?
Il y a canard-artichaut.
Ok, je prends vraiment épée, à plus.
Voilà, donc il faudra forcément les deux Pokémon pour...
Après, vous pouvez. Alors, évidemment, vu qu'on est sur Switch, ça, c'est vrai que je l'ai pas évoqué, mais on a la possibilité de faire
Pas l'artichaut.
C'est la nouvelle version qu'un artichaut de
pas l'artichaut.
Voilà, dans cette version de Galar. Et évidemment, avec la Switch, vous avez la possibilité de jouer en multijoueur pour faire des combats, mais aussi de faire
avec
des échanges.
Le câble
là, on
Link.
Voit par exemple ce petit Ponyta façon petit poney là. Il est exclusif à la version bouclier, mais vous pourrez évidemment l'échanger via les plateformes en ligne. Proposé dans le jeu, quoi. Voilà.
Chelours, c'est dedans ou pas?
Chelours, c'est dedans.
Ah, cool, ouais, parfait.
C'est bon, il y a tout
Pokémon. Voilà. Chelours, c'est dedans.
Chelours, c'est sa version Dynamax, il déchire tout.
Il n'y a pas tous les Pokémon des générations précédentes. En même temps, c'est toujours un peu difficile, mais là, on est aux alentours de 400 Pokémon tirés de toutes les générations, dont une trentaine de nouveaux. Donc, il y a quand même de quoi faire.
Tout à fait. Et rappelons donc que tu as fait le test sur Gameblog et
tu as mis
7 sur 10. Tout à fait. Voilà, bah écoutez, si vous voulez vous lancer dans l'aventure Pokémon, vous savez à quoi vous attendre désormais. Pokémon épée bouclier, donc, qui est sorti sur Switch il n'y a pas longtemps.
C'est ça.
Il y a quelques jours. Parfait, merci Tiger pour ce tour d'horizon pokémonien. Et on va passer au thème numéro 3, chers amis, et nous allons parler d'un jeu.
Star Wars.
Fallen Order.
Jedi Fallen Order.
Pardon, faut pas, surtout pas oublier le Jedi.
Non, faut pas se tromper. Ouais.
Sinon, c'est la mort. Et ça toi, c'est John Wan qui l'a testé.
Tout à fait.
Et qui va nous en parler en long, en large et à travers.
Eh oui, alors Star Wars Jedi Fallen Order.
Alors c'est quoi ?
Il va nous raconter une nouvelle histoire dans l'univers Star Wars où on va suivre Cal, là, qu'on peut voir à l'écran, si jamais vous avez la vidéo. Cal, qui tire ses traits d'un acteur assez connu, alors j'ai plus le nom en tête, c'est le mec qui jouait le Joker, enfin le Joker.
Il joue
le
dans Gotham.
Pseudo Joker dans Gotham.
J'en ai aucune idée.
Voilà, donc un
Monaghan,
petit
Monaghan, sans famille, mais j'ai pas son nom.
Monaghan,
quelque chose, bref.
Et donc. Cet acteur prête ses traits au héros Cal qui est un jeune padawan, enfin qui était un jeune padawan.
Et c'était plus un padawan maintenant.
Et non, c'était plus un padawan puisque malheureusement en plein milieu de son entraînement, il s'est passé quoi ? Il s'est passé l'ordre 66. Voilà. Terrible. Donc lui, il a réussi à s'en sortir et il se cache depuis toutes ces années, depuis quelques années sur Bakar, une planète.
Cameron Monaghan.
Bakar, une planète sur laquelle on peut trouver tout un tas de destroyers stellaires de la République, des clones échoués partout. Et lui, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il joue le rôle d'un ferrailleur. Malheureusement, un jour, pour sauver un de ses camarades de chantier, il va utiliser la Force. Qui va ressortir un tout petit peu et du coup ça va malheureusement mettre sur son dos l'inquisition de l'Empire qui est un espèce d'ordre, c'est pas des sites.
Ce qu'on découvrait dans Star Wars Rebels qui est en fait une faction formée par Vador pour anéantir les quelques Jedi qui survivraient encore dans la galaxie.
Donc on a alors ce sont des inquisitrices, on a des manipulatrices de sabre laser donc, mais qui ne sont pas considérées comme des sites dans la série, même si la seconde Inquisitrice qui sera notre antagoniste principal dans le jeu, elle a un design très vadorien, on va dire, voilà,
qui ressemble beaucoup visiblement à ce que aux esquisses de Kylo Ren.
Exactement. J'avais montré dans un ancien podcast, un vieux podcast où faudra aller retourner en 2017 pour trouver. Je vous avais parlé d'un livre sur l'épisode 7, un livre avec tout un tas de croquis préparatoires, de dessins, etc. En effet, cette seconde inquisitrice, on dirait que ça aurait pu être Kylo Ren. Voilà. Donc on va avoir cette seconde inquisitrice qui va nous courser le popotin, mais pas que. On va avoir aussi des alliés, des nouveaux alliés. Alors je me rappelle, c'est Serré, c'est une ancienne Jedi. En fait, c'est elle qui vient nous sauver au moment où on va se faire défoncer par l'inquisitrice au début du jeu. Elle vient nous sauver. Elle est avec son petit pote dans son petit vaisseau, le Mantis. Et elle a un but, c'est elle aimerait bien reformer l'ordre Jedi. Bon. Alors cet objectif, qu'est-ce qui va en arriver à ce moment-là de l'histoire ?
Je ne sais guère.
Oui, bon, bref, on peut s'en douter un petit peu. Mais voilà, donc ils ont ça comme objectif. Donc on va suivre ce fil rouge-là qui sera d'essayer de ressusciter l'ordre Jedi. Et face à ça, on va devoir se battre contre la seconde inquisitrice qui essaye de nous faire la peau et qui nous course un petit peu partout dans l'univers. Voilà. Et pour résoudre notre petit problème de restauration d'ordre Jedi, on va suivre une piste, et cette piste elle va nous mener sur une civilisation éteinte, les Zephos, qui ont laissé des ruines un peu partout dans l'univers. Voilà. Et bah nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller explorer ces ruines pour en découvrir les secrets, pour pouvoir peut-être à la fin, pourquoi pas, parvenir à notre objectif. Voilà. Donc Cal, bah, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre son petit vaisseau, le Mantis, avec son petit équipage, et ils vont partir à la conquête de l'univers. Il va y avoir, en tout et pour tout, on va visiter 6 univers différents.
Alors, il y a univers certains... ou planètes ?
Planètes, voilà, 6 planètes différentes. Mmh. Je ne vais pas vous donner lesquelles pour vous spoiler, mais il y en a certaines que vous pourrez reconnaître dans les vidéos si jamais vous les avez sous les yeux. Mmh. Donc, il va explorer toutes ces planètes-là et ben voilà quoi, voilà. Donc ça, en gros, c'est le scénario. Alors, au niveau de l'histoire, c'est cool. D'accord. Même si c'est vrai qu'en termes de rythme, le jeu est assez long. Hein. Pour voir le bout de l'histoire,
bah ouais,
moi, ça m'a pris
vraiment très long.
Ça m'a pris, je dirais, environ, allez,
c'est une vingtaine d'heures, quoi.
Ouais, 25 heures, moi, ça a dû me prendre. Voilà, en alternant entre les modes faciles et normal, et en explorant bien partout. Donc, on est sur un espèce de faux rythme quand même. Hein. Faut pas vous attendre à avoir les retournements de situation, le rythme d'un film. Non, on est plutôt sur quelque chose qui va ressembler à une série en termes d'histoire, avec pas mal de petites intrigues secondaires qui vont venir se superposer à chaque fois qu'on va visiter une nouvelle planète. Et du coup, bah, le fil rouge, il avance tout doucement. Voilà. Et au final, bon, bah, c'était cool. Hein. On a revu pas mal de poncifs des films Star Wars, le petit droïde mignon qui fait des trucs de fou. Les scripts sont assez fous, là. Par exemple, ce que vous pouvez voir à l'écran où le marcheur qui est devant notre héros vient
démentiel.
De se prendre un TIE Fighter dans le cul. Et bah, ça arrive très fréquemment, en fait. On a des très, 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 très beaux scripts tout au long de la série, tout au long du jeu. Mais voilà, donc en termes d'histoire, vous attendez pas à avoir la meilleure histoire Star Wars de tous les temps. C'est cool, mais c'est pas ouf. Voilà.
Bah, ça reste original en tout cas.
Ça reste original, c'est une histoire originale avec des personnages originaux. Alors moi, je vais mettre un autre bémol en plus sur cette partie-là, histoire, c'est que le design des personnages, moi, m'a dérangé en fait. On dirait qu'ils sortent d'une série animée,
d'une
Pixar. Voilà.
Bah, c'est marrant que tu dis ça parce que ça soit le plot comme l'aspect, moi, ça me rappelle justement énormément Star Wars Rebels.
Ouais.
Parce que la série Star Wars Rebels, tu suis justement un Padawan qui va être formé. Et comme tu le disais par rapport au design de la seconde sœur inspirée de Kylo Ren dans Star Wars Rebels, il y avait déjà cette idée de reprendre des designs préliminaires. Le robot qui s'appelle Chopper, je crois, était un design préliminaire d'R2-D2, l'un des personnages c'est un design préliminaire de Chewbacca. J'ai l'impression qu'ils ont fait un peu ça, et moi, contrairement à toi, de ce que j'ai vu de la galerie de personnages, je trouve qu'elle a un côté très première trilogie avec des persos qui ressemblent un peu à des marionnettes moches, et justement c'est ce qui me plaît en fait. Voilà.
Bah c'est ce qu'on retrouve aussi avec le doublage, hein. Moi, je trouve que le doublage français,
moi je l'aime bien, moi je
fait très frais, très début années 80,
exactement,
vraiment. Ouais.
C'est peut-être fait exprès aussi,
je pense pas.
Il y a que du doublage en français ou il est en
alors
anglais?
Si ta console
non,
est en français,
ouais.
Ah oui, d'accord.
Et bah tu joueras en français.
Ah bah, c'est tu peux la mettre en anglais, c'est pas grave.
Bah, j'ai trouvé ça un peu la VF.
Non, là la VF elle est plutôt cool. Moi j'ai rien,
c'est pas mauvais, c'est juste que ça fait un peu vieillot par moment, je trouve.
Non mais oui, ça plaira, hein. Et puis c'est sûr, en tant que fan, on est content de voir évoluer à nouveau cet univers. Maintenant,
la période à laquelle ça se passe surtout, c'est-à-dire que ça soit entre le 3 et le 4, c'est chouette.
Je sais pas, je vais donner un exemple. Par exemple, en termes de jeux vidéo, le dernier gros jeu solo à être sorti avant ce Jedi Fallen Order, c'était Le Pouvoir de la Force. Voir Le Pouvoir de la Force 2, moi j'avais préféré l'histoire de l'apprenti Starkiller, que j'avais trouvé mieux intégrée, plus profonde, plus avec de plus gros enjeux, que celle de ce Jedi Fallen Order, même si ça reste très plaisant à suivre. Voilà. Alors bon,
dans des phases Uncharted, on en parle ou pas?
Bah, parlons un petit peu de jouabilité maintenant, puisque donc comme je vous le disais, ce jeu c'est le premier vrai jeu solo de cette nouvelle génération.
Ça fait plaisir,
de console.
Putain, enfin.
Voilà, parce que jusqu'à présent on avait eu quoi?
Je suis désolé, je suis obligé d'interrompre, mais
de Star Wars.
De dire ouais, génial.
De Star Wars, j'en ai rien à péter, mais putain, ils ont mis des années à arriver à un truc comme ça. Je suis désolé, moi c'est ce que j'aime.
Faire un vrai
action
jeu.
Mais comment ça, c'est que. Mais Traz,
Traz, ce jeu,
mais t'es un imposteur!
Il s'enthousiasme pour les autres!
Mais je vais le faire, celui-là, c'est obligé!
Ouais, c'est pas possible!
C'est comme les gens qui faisaient semblant d'être contents quand on est champion du monde, c'est pas grave, il est avec nous, il est dans la bonne vibe, Traz!
Ah non, pas du tout, moi je le dis, Star Wars c'est vraiment pas mon truc, j'y connais absolument rien!
Mais t'es content?
Mais quand un jeu comme ça est bien fait, que ça s'appelle Star Wars ou machin truc, moi je dis ok, pas de soucis!
Non, t'as pas dit ok, t'as dit ouais, enfin, yes!
Oui, enfin, un jeu! Tu pourrais y aller!
Hein?
toi qui es fan d'Uncharted.
Mais oui, c'est ça. Enfin, un jeu à la Uncharted dans l'univers Star Wars, machin. Peu importe l'univers, mais de toute façon, oui, c'est.
Surtout qu'on en parle. C'est quand même bien fichu, quoi. On va en reparler d'un petit peu d'Uncharted après.
Exactement. Parce que je te laisse continuer.
Ouais, du coup, je me suis perdu, en fait.
Bah, c'est à cause de lui, là.
Bah, c'est le gameplay. C'est du gameplay Tomb Raider Uncharted avec un peu de Sekiro, un truc, tout ça.
Non, voilà, je parlais du fait que ce soit le premier jeu solo. Parce qu'on a eu quoi jusqu'à présent, hein, sur PS4, on a eu quoi? Hein,
Battlefront.
Caca. Voilà.
Moi, j'ai décidé d'acheter une PS4 le jour où j'ai vu le trailer de Battlefront à l'E3. Grand mal m'en fasse. Voilà.
Je trouve que Battlefront avait un gros avantage par rapport à Fallen Order, par contre. C'est au niveau sonore. C'est un truc qui me dérange. Et moi, c'est ce que j'adorais dans Battlefront. C'est que vraiment, les sons explosaient. C'était peut-être même saturé.
Le sound design, il est bon. Hein,
oui, je le trouve pas si bon que celui de Battlefront. Il n'y a pas cette pêche qu'on retrouve. Dans les
parce que
les
les enceintes de la mort de Plume.
Mmh. Ouais, c'est vrai,
c'est pour ça.
Ça c'est vrai, vrai aussi. C'est vrai.
Il a home cinéma chez lui de Bourgeois.
Exactement.
Tu vois, je te le dis, je sais même pas en fait.
Mais donc voilà, on est jusqu'à présent, on avait eu quoi, un premier Battlefront avec quoi, 30 minutes de solo. Allez, à tout péter. Après,
ah oui, ça fait
ah
ça.
Oui,
ça.
Jouer,
ah
oui, bien
si
sûr.
Tu voulais jouer, fallait ouais, aller en solo. Ligne. Voilà.
C'est pas
alors,
un
Battlefront 2, lui, il avait un vrai solo avec une vraie histoire qui était plutôt cool d'ailleurs. Hein. Mais, ouais. Vous souvenez, hein, le Mega Bad Buzz, etc. Voilà, ouais. Ce jeu gardera ça pour lui. Il se gardera cette sale étiquette toute sa vie.
Bah, même si voilà. Au fur et à mesure des dernières mises à jour, ils ont amélioré beaucoup de choses en plus. Mais
5 ans après.
C'était trop tard. Ouais,
mais bon, c'est trop tard, voilà. C'est trop tard pour Battlefront 2. Et ben voilà, là ça y est, on a un vrai bon jeu Star Wars, un vrai de vrai. Et donc ce jeu, il va utiliser pas mal de mécaniques Uncharted Tomb Raider. Ça va être ce qui va être le gros de la base du jeu. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que bah, déjà notre petit Cal, lui, va grimper partout. Il va grimper au mur, il va grimper sur les marcheurs, comme vous avez pu voir dans la vidéo tout à l'heure, où il grimpe sur un marcheur pour pouvoir aller à l'intérieur. Il va y avoir.
Et il se faufile aussi. Hein,
ouais, il se faufile. Il grimpe, il saute, il tire des lianes, il joue à Tarzan. Enfin voilà, il fait vraiment toute cette partie-là acrobatie qu'on peut retrouver dans les jeux type Tomb Raider ou Uncharted. Et on va retrouver aussi un autre aspect qui va être l'exploration de temples, puisque les niveaux sont des temples géants. Et en gros, pour passer à la pièce suivante, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir déplacer un pilier avec la force, il va falloir prendre une boule, la faire passer dans un tunnel pour qu'elle se retrouve dans une autre pièce et activer un mécanisme, etc. Voilà,
petit qui va ouvrir la puzzle, porte machin, hein.
Voilà, donc il va y avoir un peu des puzzles dans les niveaux. Donc tout ça, on va retrouver une grosse influence Tomb Raider, Uncharted dans le jeu. Et ça, pour le coup, c'est plutôt bien fait, parce qu'en plus les niveaux ils sont bien fichus. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a six, on va visiter 6 planètes. Il y en a 3 notamment qui sont grandes, sur lesquelles on va passer du temps, on va même y revenir 2 fois. C'est-à-dire on y vient une première fois, on y revient une deuxième fois quand le scénario du jeu l'exige. Et donc les niveaux sont vastes, ils sont grands. Ça fonctionne comme un Metroidvania, c'est-à-dire qu'on va déverrouiller des pouvoirs un petit peu au compte-goutte dans le jeu. L'appréhension de force, la répulsion de force. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le lancer de sabre. Notre droïde, il va pouvoir acquérir des nouvelles petites caractéristiques. Il va pouvoir pirater des trucs. Il va pouvoir. Toutes ces choses-là qui vont permettre d'ouvrir les portes du niveau à droite, à gauche, ouais. Niveaux qui sont bien fichus parce qu'il y a énormément de verticalité.
Mais voilà. Tu parlais des compétences. Est-ce que du coup, tu as un arbre de compétences qui te permet de personnaliser ton personnage, ou est-ce que c'est ces arbres de compétences bidons où tu sais, en fait, finalement, au bout d'un moment, tu complètes tout parce que.
Ouais, c'est un arbre de compétences bidons.
Ah oui, d'accord.
Voilà. voilà. Dans lequel, okay, au final, pardon. Tu complètes tout. Voilà. Non, il n'y a pas d'aspect RPG dans le jeu. Il n'y a pas de quête. C'est très linéaire. Très linéaire, c'est-à-dire que les.
Ils ont fait très grand public, quoi.
C'est un monde à la Metroidvania. Voilà.
Ok.
Donc, comme je te dis, où tu vas vraiment pouvoir déverrouiller une porte quand tu auras déverrouillé le pouvoir et revenir sur la planète après. Enfin, bon, bref, voilà.
Et on peut ajouter que c'est vraiment tellement pas RPG que dans les coffres, tout ce que tu trouves, c'est
du cosmétique.
C'est du cosmétique à chaque fois. Des extraits, des trucs pour rendre plus joli ton sabre ou plus.
Changer la couleur de la lame.
Ah, ça pousse pas trop à l'exploration, ça, quand même.
Au moins, c'est gratuit.
Si.
D'accord.
Alors, il y a quand même quelques. Moi, je les ai pas encore toutes faites, là. Il y a quelques petites. Il y a, je sais, un donjon optionnel, voilà, que j'ai pas encore fait. Et il y a des boss optionnels. Il y en a un par grosse planète. Moi, j'en ai fait 2 pour l'instant. Il m'en reste 2 à faire.
Dans l'espèce de gros crapaud,
non,
là.
Je platinerai pas parce qu'il faut le finir en.
Mais si
ultra
tu as platiné,
difficile,
quand tu joues, tu platines.
Le gros crapaud dans la première planète, là.
Ouais, voilà.
Si au début, c'est pas la peine.
C'est à l'hypno-crapaud, moi.
Mais t'as retrouvé les sensations de Sekiro en jeu, du coup? Alors, c'est aussi précis ou c'est.
Non, c'est pas aussi précis. Alors, pourquoi est-ce que je balançais Sekiro dans le nom du test? C'est un petit peu pour le gameplay, un petit peu pour les combats.
si quand même, même s'ils sont beaucoup moins rapides, hein, faut dire ce qui est.
Et la progression.
Et c'est surtout la progression en fait. C'est-à-dire que donc on a cette grosse mécanique Tomb Raider qui va être de devoir explorer les donjons avec l'ouverture des portes en mode Metroidvania. Et à côté de ça, on a rajouté une grosse surcouche From Software. Pourquoi? Pourquoi donc, me direz-vous? Eh ben déjà, il va y avoir plusieurs principes qui vont expliquer cela. Déjà, l'exploration, votre vie ne se recharge pas. Vous avez deux kits de soins que vous pouvez utiliser. Vous n'en trouverez pas dans les coffres. Les ennemis ne vont pas en dropper. Votre vie ne remontera pas. Elle ne remontera que quand vous irez vous reposer au feu de camp. Donc là, qui est un feu de camp, mais qui est un point de méditation. Malheureusement, le fait de se reposer au point de méditation, bah, ça fait réapparaître tous les ennemis de la zone.
D'accord.
Voilà, bah, ça, c'est une première mécanique source. Voilà, exactement. Et ensuite, on va avoir une deuxième mécanique, c'est-à-dire si tu meurs, tu perds l'expérience du point de compétence en cours et tu as une chance d'aller la chercher. Encore une mécanique.
Tu la récupères comment du coup?
Tu tues l'ennemi qui t'a tué.
Ah d'accord, ok.
Voilà.
Oui, j'imagine que t'as pas un corps à ramasser.
Non. C'est vraiment en tuant l'ennemi qui t'a tué.
Juste le frapper.
C'est vrai. Tu lui tapes une fois et voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme mécanique? Et ensuite, donc l'autre truc qui va faire penser. Bon, alors il y a plein d'autres trucs qui font penser à du Dark Souls. Par exemple, dans les niveaux, on va pouvoir déverrouiller des raccourcis à droite à gauche, tirer la rigueur.
Après avoir bavé, t'as un raccourci.
Voilà,
c'est juste à côté du point de méditation.
Voilà, exactement. Donc ça, c'est assez amusant. Ça rappelle bien les Souls aussi.
Mais tu disais qu'il n'y avait pas la précision de Sekiro.
Non. Alors après, en termes de combat, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui va s'inspirer de Sekiro. Sekiro, c'était quoi? T'avais t'attaquer et t'avais ta jauge de garde et ton but, c'était de faire dégoupiller la jauge de garde adverse pour pouvoir lui placer un contre. Bah là, ça va être la même chose. T'as ta jauge de garde, l'adversaire a lui aussi sa jauge de garde et ton but, bah, ça va être de pas de le taper comme un bourrin parce que ça, tu n'y arriveras pas. Même en facile, tu n'y arriveras pas. Même en facile, les ennemis sont résistants. Non, il va falloir y aller petit à petit, parer les coups de ton adversaire, lui mettre des coups dans sa garde à lui parce que tu n'arriveras pas à le toucher du premier coup, jusqu'à faire dégoupiller sa jauge de garde et là, t'auras une fenêtre pour l'attaquer. Et notamment, alors le contre, il est quasiment aussi puissant que dans Sekiro, c'est-à-dire que la meilleure arme là-dedans, c'est donc t'as l'esquive, t'as pas mal de trucs qui te permettent de te défendre dans les combats.
Et tu contres comme un
bourrin. Mais quand tu contres, c'est assez violent. Voilà. Et là, tu peux faire dégoupiller la jauge de garde en un seul coup, si t'arrives à placer le contre au bon moment. Donc c'est ce gameplay-là, en fait, qui m'a un peu fait penser à Sekiro. Donc on a une vraie surcouche From Software par-dessus cette surcouche Tomb Raider, quoi.
En fait, ils ont pris vraiment, quelque part, le meilleur de plein de jeux.
Ouais, voilà, c'est un espèce de melting pot. Ils ont pris des formules qui fonctionnaient à droite à gauche.
Ouais,
ils ont pris donc la formule Tomb Raider pour l'exploration de tombeaux, la formule Metroid pour la map et la façon dont tu vas l'explorer et où tu vas pouvoir déverrouiller les différents compartiments et tous les secrets. Et à côté de ça, au niveau de l'exploration, ils nous ont mis des règles d'exploration à la From Software qui sont plutôt cool. Et en plus de ça, les combats, ils sont plutôt bien aussi. Alors certes, c'est pas
Uncharted pour la grimpette.
Alors certes, c'est pas aussi ouf que dans Sekiro, c'est pas aussi nerveux, puis c'est pas aussi difficile. D'accord, soyez bien d'accord.
D'ailleurs, même si j'ai un problème avec les temps de latence entre les commandes.
T'as touché sur Xbox One.
Par moment ça me dérange un petit peu. Alors faut s'y faire. Mais ça me dérange un petit peu.
En quelle difficulté?
En Chevalier Jedi, c'est ça?
Ouais, c'est la normale.
Je veux dire, il faut s'y faire. Voilà, c'est juste ça. Et le fait que tu ne pars pas. Tu gardes pas automatiquement, il y a un petit temps avant qu'il lève son sabre et que tu puisses faire ta parade ou un petit temps avant que l'attaque elle parte, ça peut être déstabilisant pour beaucoup de monde.
Notamment sur certains boss aussi, on va avoir du problème de timing sur la contre parce qu'il va falloir être observateur, bien observer les mouvements ennemis pour pouvoir lancer le contre au bon moment parce que sinon on va se faire avoir. Alors le jeu, moi, il y a autre chose qu'on pourrait avec lequel on pourrait le rapprocher d'un Souls ou d'un Sekiro, c'est la difficulté. Alors en facile on est facile, en normal ça reste tout de même, il y a tout de même un peu de challenge comme je vous le disais, sortie des Stormtroopers de base, tous les autres ennemis sont résistants et vont pas se faire avoir du premier coup, voilà.
Et puis quand ils sont nombreux, tu files bien.
Contre les boss, exactement. Et il suffit que vous montiez un tout petit peu la difficulté. Alors il y a difficile et super difficile. Et alors là, vous êtes en face d'une expérience comparable à ce que vous pourrez avoir dans un Dark Souls, voilà. Exactement, en termes de difficulté. Voilà. Donc au niveau de la jouabilité, c'est un bon mélange et c'est bien réussi parce qu'on a de l'exploration, on a des petites énigmes, on a des combats qui sont bien stylé. Et à côté de ça, en plus de ça, on a une surcouche From Software qui est pas dégueu et qui devrait faire plaisir à certains. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il a pas de 10 sur 10 ce jeu là?
Ah oui, c'est pourquoi il a pas de 10 sur 10, alors voilà, que Traz était prêt à lui donner.
Parce qu'on a dit qu'en termes de gameplay, c'était super. Bah, déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'histoire, elle m'avait pas séduit plus que ça. Hein, voilà. Elle est cool, mais c'est pas la meilleure du monde. L'autre truc qui fait rager un petit peu, c'est la technique. Parce que, bah, malheureusement, elle est pas super à la page. Alors, déjà, le premier truc qui choque, c'est les animations. Mon dieu, les animations de ce jeu. Votre héros, en soi, elles sont pas si moches que ça, mais les transitions entre deux états du héros, je sais pas, moi, par exemple, il est en train de courir, il va mettre un coup de sabre, ou il va sauter sur une pierre, où il va avoir une jambe un peu en l'air et l'autre au sol, enfin, c'est une catastrophe.
Il manque des étapes.
Pas bien foutu.
Parce qu'à côté de ça, il y a des animations qui sont super classe.
Il y en a qui sont super classe, mais il y en a d'autres, par exemple, est-ce que t'as vu l'animation de quand tu lances un pouvoir, mais il le lance dans le vide, et il regarde sa main comme ça.
Oui.
Oh mon dieu. Moi, j'ai pris la capture d'écran, j'ai voulu faire la capture d'écran du héros qui regarde sa main, comme ça. Enfin bref.
Parce qu'est-ce qu'il aime bien sa main, je sais pas.
Non. En plus, avec son visage vide là. Enfin,
il se dit par la main, je sais pas.
Non, les animations, c'est vraiment pas ça. Et alors moi, il y a un truc qui m'a vraiment choqué, par exemple, c'est ne serait-ce que c'est un truc que j'ai fait 2-3 fois à certains moments pour m'en mettre plein la vue. Tu sais, la marche forcée, comme on nous l'impose dans certains jeux. Moi, je me la suis imposée moi-même pour découvrir certains décors. Ton personnage tremble quand tu marches, voilà, déjà rien que ça, il gère pas la marche, voilà. Donc non, les animations, ça le fait pas et ça casse un peu le délire. Il y a un autre truc qui casse le délire, c'est les coups de sabre laser qui découpent quelques trucs. Alors déjà dans le décor,
que
c'est
les robots,
pas
quoi.
Tout le temps, voilà. Dans les décors, on va pouvoir faire des traces rouges uniquement sur certaines parties du décor, genre les portes, ce genre de trucs, mais les murs et tout, c'est mort. Et surtout, on va rien pouvoir découper. On découpe les droïdes, on découpe les animaux, on découpe les fleurs, on découpe quelques éléments de décor, alors toujours au même endroit. C'est-à-dire que le trait de ça aura lieu toujours au même endroit sur tel ennemi ou tel objet. Donc ça, déjà, c'est un peu dommage. Et si c'est un humain, c'est mort. Tu coupes rien. Voilà, les humains sont en adamantium, le sabre laser est en mousse, voilà, et il ne coupe que
pas les humains.
Voilà, c'est très dommage, surtout quand on sait que le pouvoir de la force 2 le faisait. Dans le pouvoir de la force 2, tu coupais les bras, les jambes, les têtes.
Donc maintenant, c'est du politiquement correct, voilà. Tu penses, du coup
Je sais pas comment ils justifient ça. Oui, c'est Mickey, c'est Disney, j'en sais rien.
Moi, perso, je trouve ça bizarre qu'en tant que Jedi, il attaque des créatures vivantes en permanence.
On l'a vu
découper des animaux qui avaient rien fait à chaque fois, moi je trouve ça très bizarre.
Si les animaux t'attaquent, hein.
Le Jedi
est pacifique.
Non, c'est pas un Jedi, c'est un ancien Padawan, il n'a pas de contrôle mental. Il n'a pas d'éclairs qui lui sortent des mains non plus. Enfin bon, bref. Il est assez faiblard au niveau des
éclairs, c'est les Sith.
Ouais, je sais. Mais par exemple, si tu compares en termes de puissance Cal et l'apprenti du pouvoir de la force, Cal, c'est un mob dans le pouvoir de la force. Voilà.
Oui, mais c'est juste que
un mythe boss.
Cal. Ça l'oblige pas à assassiner tout le monde. C'est ça que
non,
je dire,
mais il a pas le contrôle mental, Cal. Voilà.
D'accord.
L'apprenti l'avait, et lui non. En termes de puissance, il est clairement un peu plus faiblard, ce qui rend les combats un peu plus compliqués aussi d'ailleurs. Hein. Voilà. Il y a donc ce sabre laser qui découpe. Donc ça c'est vraiment dommage. Et il y a un autre truc qui fait rager, c'est tout simplement la technique pure et dure en elle-même. Alors moi j'y ai joué sur PS4 Pro, j'ai choisi d'entrer le mode performance qui me permettait d'avoir un meilleur framerate au prix d'une résolution moins élevée. Voilà, même avec ce mode là on a des ralentissements.
D'accord.
Voilà, qui sont pas fréquents, qui arrivent de temps en temps. Alors sur je vais te donner le nom d'une des planètes, Kashyyyk. Sur Kashyyyk, j'ai eu droit à plus de ralentissement que sur les autres planètes. Je ne sais pas pourquoi, mais sur Kashyyyk, j'ai eu l'impression que
c'est la végétation. Parce que j'allais dire, il y a trop de végétation.
Des Wookiees, mon dieu. Je parlais du design des personnages tout à l'heure qui était dégueulasse, celui des Wookiees c'était encore pire.
Ah ouais,
non mon dieu, les Wookiees.
Ça on l'avait vu dès le premier trailer, les Wookiees ils ont des gueules.
Ils en ont fait des couettes.
Non, c'est juste là.
un Wookiee.
C'est juste les têtes des Wookiees, quoi.
Ah, non, ils sont par hasard.
Tiens, voilà, ouais, en effet. Ouais.
Tu dirais un vieux modèle 3D des années 90.
C'était lui qu'on avait vu dans le trailer de l'E3. Il s'était fait déglinguer sur la réseau social. Ah, il est super mal fait. Son visage est super mal fait.
Non, les Wookiees sont très moches. Vraiment très, 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 très moches. Non, mais Kashyyyk, même en intérieur, des plans en intérieur où j'avais des ralentissements qui duraient des fois 5-6 secondes d'affilée. Je disais, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Donc Kashyyyk, je ne sais pas pourquoi, elle déconne un petit peu. Et donc, bah voilà, des chutes de framerate, mais aussi, ça c'est valable sur toutes les planètes, du popping, en veux-tu, en voilà, ouais. Devant toi, au fond du décor,
au milieu, à droite,
à gauche, en haut, en bas, et pareil pour les textures, voilà. Les textures, elles apparaissent un peu quand elles veulent.
Même problème sur Xbox One.
Voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Donc ça, c'est dommage, ça casse un peu l'ambiance, et ce, d'autant plus que ces défauts, là où on les voit le plus, c'est pendant les cinématiques. Voilà, où chaque cinématique s'ouvre sur un petit bug graphique.
D'accord.
chaque cinématique. Non, ça la fout mal. Voilà, donc c'est dommage. C'est dommage parce que donc le gameplay, c'était vraiment très très bon pour ce Jedi Fallen Order, avec son mélange de Tomb Raider, de From Software, de Uncharted, de tout ce que tu veux. Voilà. Tiens, je t'avais dit que je te reparlerais d'Uncharted, je t'en ai pas parlé. En fait, finalement.
Si, on en a parlé un petit
ouais,
peu.
Ouais, mais.
J'ai vu les phases de grimpette en vidéo, tout ça.
Il y a un moment où.
T'as un petit passage sur un train au début du jeu.
Ouais, oui, surtout, il dit non, à un moment.
Non.
Ah ouais.
Voilà, j'ai pas vu la référence.
C'était très vite. C'est le moment où il décroche le train. Il y a un bout du train qui se décroche. Il est accroché au truc. Il fait non.
T'as la ref.
Ok, j'avais pas vu la ref.
Ah bah ça, mais les Easter eggs, ça n'a pas manqué, à mon avis. Je suis là.
Donc voilà. Donc ouais, un super gameplay avec de l'exploration, des niveaux qui sont vastes, qui sont agréables à parcourir, des combats qui sont plutôt cool, qui peuvent être même très très difficiles si jamais vous le désirez, avec la petite surcouche From Software qu'on nous a collé au niveau de l'exploration. Une histoire qui n'est pas la plus extraordinaire des histoires
debout.
Star Wars, mais qui se laissera suivre quand même, voilà, malgré son design des personnages qui, moi je vous le dis, ça m'a pas plu, hein, voilà. Et,
le perso principal, il a du charisme ou pas? Parce que Camille, il avait l'air de dire qu'il était
Non, mais il a raison.
Je sais pas, dans l'histoire de Star Wars.
C'est un peu une coquille vide.
Est-ce qu'il fait pitié ou pas?
Non, et disons que son design n'aide pas.
Quoi, on dirait un paysan, c'est ça?
Non, c'est pas ça. Bah, je sais pas, moi je te dis, le design un peu cartoon des personnages, j'ai pas trop aimé. Et puis c'est vrai qu'en termes de choix moraux qu'il va faire dans l'aventure, oui, c'est un peu une coquille vide.
D'accord.
Voilà.
On peut utiliser des véhicules et des choses comme ça ou pas?
Non.
Juste un petit vaisseau tout à l'heure quand il shootait.
T'as un moment où tu rentres toi dans
la
TST.
Bon, sans tout spoiler,
tu vas conduire un véhicule à un moment.
D'accord.
C'est un passage qui est assez pourri d'ailleurs, j'ai trouvé moi. je lui ai pas trouvé de patch ou de. Bon. Pas de pêche ou de peps. Et je garde de meilleurs souvenirs de. Pourtant, un jeu qui était nul. Mais qui te mettait aux commandes d'un Walker aussi, c'était Rogue Squadron 3 sur GameCube.
Voilà. Ah oui, les fameux.
Voilà.
Parfait, le
passage de Rogue Squadron, j'en garde un meilleur souvenir que celui-là. Celui-là, ça a duré 5 minutes et heureusement que ça n'a pas duré plus de 5 minutes. Voilà.
Parfait, c'est un jeu solo 100%, ouais. 8 sur 10,
indispensable si vous êtes fan de Star Wars, allez-y, sans hésitation, aucune.
Tout à fait, je crois que c'est le moment d'y jouer.
J'hésite.
Ah j'y suis toujours.
Tout le monde va le finir ici.
Il faut que je finisse absolument, ouais.
Quelle classe. Merci beaucoup Johnny Wan. Écoute, pour ce Star Wars Jedi Fallen Order donc, qui est sorti vendredi dernier et que vous pouvez vous procurer dans les meilleures crèmeries, n'est-ce pas? Tu vois le délire ou pas? Tu vois,
tu t'es fait.
Merci beaucoup, donc 8 sur 10 on le rappelle, indispensable, Gameblog. Tout de suite on va passer à la suite qui est l'anniversaire. N'est-ce pas, petit plume?
L'anniversaire.
Alors, il y a 15 ans. Anniversaire, il s'agit.
Est-ce qu'il y a 15 ans, tu te rappelles où t'étais ou pas?
Non, j'étais en enfer, je pense.
T'es sûr?
Ouais.
T'étais pas chez Gaming il y a 15 ans?
Non, mais j'étais en enfer, c'est ce que je dis.
Ah, ok, d'accord.
Voilà.
il y a 15 ans, le 16 novembre 2004, sortait la suite d'un monument du jeu vidéo.
D'un monument
historique. D'un des meilleurs jeux de tous les temps. La suite de Half-Life.
Et t'avais kiffé ou pas?
Attends, laisse-moi le temps.
Ah, du calme, Gaël.
Laisse-moi le temps de me poser, du calme.
Tiens, regarde.
Je sais bien que
Paco Rabanne qui te parle.
Jedi Fallen Order, t'as enthousiasmé.
J'ai envie d'y jouer là tout de suite.
Tu vas pouvoir. Mais c'était Half-Life 2 donc, qui arrivait 16 novembre 2004. La suite des aventures de Gordon Freeman, le scientifique qui avait ouvert par erreur un portail vers d'autres mondes en 99, avec un Half-Life qui est pour beaucoup de monde, je vous le dis, un des meilleurs jeux de tous les temps, si ce n'est le meilleur.
Et donc,
on se retrouvait avec cette suite presque inattendu, dans un tout autre cadre, qui était la Cité 17. Ça se passe des années après le premier Half-Life et c'est un peu le bordel politiquement.
Et d'ailleurs, pourquoi, comment, quoi, quand tu débarques dans cette cité.
C'est toute une histoire.
Un programme.
Il est en gros sorti de sa stase par le G-Man. Alors, la figure du G-Man que vous devez connaître, cet homme avec cet attaché case, le visage extrêmement mince.
Chelou.
Et très chelours, absolument. Mmh. Et donc, vous vous retrouvez à devoir essayer de lutter avec la rébellion de cette cité 17. Vous allez rencontrer différents personnages comme Alix Vance, qui pourrait bientôt se retrouver d'ailleurs comme héroïne d'un spin-off en réalité virtuelle. Et donc, c'est un monde qui est assez différent. Là, vous n'êtes plus baladé de planète en planète ou à l'intérieur du site de Black Mesa. Là, c'est vraiment une ville gigantesque. C'est toujours un jeu qui est assez linéaire, finalement.
Mais ça a bien vieilli, hein, globalement, quand même, techniquement, je trouve.
Bah, c'est toujours aussi joli, ouais.
C'est plus pixelisé, forcément, mais...
Le Source Engine...
Pour 15 ans d'âge...
Faisait quelque chose d'assez propre, et puis le design qui était signé par Victor Antonov, c'est quelque
sacré
chose...
Victor.
Qui est toujours très efficace. Donc c'était vraiment un excellent jeu d'ambiance, encore une fois très cinématographique, avec surtout une narration qui était par l'environnement et pas par les yeux, hein, tout simplement. Il n'y avait pas de cinématique à proprement parler, on vivait vraiment le truc avec des scripts, effectivement,
un jeu Kojimesque
pour bien
oui, c'est un jeu qui a un propos, en tout cas. Ça, c'était sa grande force aussi,
absolument, ouais. Et donc, grosse ambiance, grosse patte artistique, excellente narration, et surtout,
narration.
Cette fois, encore une fois, des idées de gameplay. Alors, on pense à Chien, le robot géant qui vient vous filer
des
petits coups de main de temps en temps, mais surtout à une idée de génie, surtout pour l'époque, une époque où la physique dans les jeux était encore un petit peu un peu compliquée à maîtriser pour la plupart des développeurs. Et ben, Valve, ils sont arrivés, ils ont dit: on va vous sortir un Gravity Gun, donc un gros flingue qui permet d'attirer et expulser des objets, quasiment tous les objets qui sont présents dans l'environnement. D'ailleurs, bravo pour la vidéo, on vient de voir quasiment la fin du jeu. Et
personne ne la connaît, on s'en fout.
Bon, de toute façon, on en parlera après de la fin, mais bon. Et donc, grâce à cet objet, en fait, on se retrouvait avec un jeu qui était essentiellement basé sur des casse-têtes, des puzzles, qui étaient tous très bien conçu au passage, beaucoup plus que sur le shoot à proprement parler. C'est d'ailleurs le shoot, c'était vraiment pas difficile du tout. En tout cas, dans mes souvenirs, c'était vraiment pas un jeu qui était très compliqué de ce côté-là, et qui était vraiment beaucoup plus axé sur sur l'interactivité et l'usage de la physique, notamment des masses, des déplacements de masse, pour créer notamment des plateformes, on va dire, qui allaient vous permettre d'aller en hauteur. C'était encore une fois,
mais tu pouvais faire n'importe quoi aussi.
C'était des effets inédits à l'époque, hein.
Bah, ouais, absolument,
quand on remet dans le contexte, c'était vraiment ouf, hein, ce que ça proposait.
Exactement. Et c'est vrai que quand je me souviens que chez Joystick ils l'ont eu, j'étais comme un gosse à vouloir leur voler absolument. Bon, ils m'ont pas filé
quand on ragdolling.
Et que ce soit aussi en termes d'intelligence artificielle, c'était aussi encore une fois complètement à l'avant-garde. Alors, le gros problème du jeu, une fois qu'on avait passé le gros du jeu, le gros du scénar, on arrivait à la fin et ça s'arrêtait vraiment d'une façon mais ultra sèche. Il y a eu ensuite les deux extensions, épisode 1 et épisode 2, qui n'ont pas vraiment amélioré la chose. Là, aujourd'hui, on attend toujours Half-Life 3.
Oui, bah, tu peux attendre, je crois.
Et je crois qu'on peut vraiment attendre, effectivement. Et ça mérite vraiment que, ouais, on fête ces 15 ans à Half-Life 2. Ça mérite d'y rejouer aussi, parce que, comme tu l'as dit, Traz, le jeu a pas trop mal vieilli. Et je
franchement,
pense,
ouais.
Et je
moi, crois ça qu'il m'a donné envie, là.
Et je crois qu'il y a des modes qui
ça
permettent d'affiner encore
les textures et tout ça.
Le rendu. Je crois même qu'il y a des mecs qui ont essayé de le reproduire en Unreal Engine 4 aussi.
Il est modé dans tous les sens. Et puis,
oui, c'est possible.
Moi, Half-Life 2, je l'avais fait assez tardivement. Je crois que je l'ai fait en...
Avec l'Orange Box, non ?
Ouais, avec l'Orange Box.
Ah oui, l'Orange Box,
c'est en 2007. C'est ça que j'ai à la maison, moi.
2007.
Et le fameux pack de l'enfer.
Ou 2006. Bon, bref.
Et non, mais moi, je l'avais même acheté plus tard dans l'Orange Box, mais à travers une compile. Donc, je dis vraiment genre 2011, je crois que je l'ai fait Half-Life 2 sur Steam. Et j'étais époustouflé par la modernité encore du titre à cette époque. Il y a 8 ans, mais en effet, si c'est...
Je pense qu'il vieillit bien, quand même.
Bah ouais.
J'ai l'impression.
Ouais, ouais.
Non, mais ouais, ça m'a saucé. À l'époque, j'avais mis le nain de jardin dans la fusée. Je m'étais tapé ce délire. Non, je sais plus dans lequel, épisode 1, épisode 2, il y a un succès. C'est un nain de jardin au début du jeu et il y a une fusée à la fin. Il faut mettre le nain de jardin dans la fusée à la fin. Voilà. C'était
et
une
tu
galère. Oh, c'était une putain de galère.
T'as eu un trophée Steam ou
quoi ? Ouais, c'est ça.
Ouais,
c'est
bon,
on l'a eu. Non, c'était
sur Xbox à l'époque. 0,001%
c'est un succès, c'est bon. Alors.
Mais voilà. Donc, non, il fallait faire le jeu avec. Donc, tu sais, il n'y a pas d'inventaire, il n'y a que dalle dans le jeu. Quoi. Quand le nain de jardin, il faut le porter à la main tout le long du jeu, jusqu'au bout, le poser pendant les combats, ne pas oublier d'aller le chercher. Enfin voilà. Il y a un passage en voiture, c'était une horreur. Une horreur.
Moi je me rappelle du passage dans le cimetière qui m'avait bien fait stresser dans Half-Life, mais. Mais voilà, c'était il y a longtemps.
Non, ouais, bah, parfait, date, écoute, hein. Génial, c'était il y a 15 ans donc, et c'est sorti quand le 16 novembre 2004.
Absolument.
Bah voilà, vous pouvez toujours le refaire si vous avez envie. Hein. On le trouve un peu sur toutes les plateformes, enfin non, sur Steam forcément.
Bah oui, sur Steam.
Que sur Steam, hein, pas ailleurs, c'est pas sorti.
Tu pouvais l'avoir sur sur PS3, Xbox 360. Et attends, parce que l'Orange Box, elle est sortie sur PS2 aussi.
Elle est
peut-être,
sortie,
ouais,
non, alors dans mes souvenirs, c'est PS3 360. Hein.
Mais je sais plus si Half-Life 2 est pas sorti sur PS2 aussi.
Elle a dit PS3.
Half-Life 2.
Alors PC 360.
Half-Life plutôt. Sur PS2, PS1 même.
On fera vérifier, on est bien sûr à 100%.
Vous nous direz dans les
Orange Box, cherchez sur le net. Et...
Non.
Orange Box, c'est
PS360. Half-Life n'est pas sorti sur PS1.
Le premier
Dreamcast,
il devait sortir sur Dreamcast.
Dreamcast,
il est pas sorti.
Et c'est Gearbox qui veut le faire et je l'ai vu chez eux là.
Non, il était sur PC, il est pas sorti sur PlayStation.
Bon, tout à fait. PS2 alors.
Peut-être PS2, Half-Life 2.
Mais vous pouvez toujours vérifier, chercher, il n'y a pas de souci.
Absolument.
Bah bref. Écoute, merci pour cet anniversaire. Donc Half-Life 2, on attend toujours le 3, peut-être un jour.
Bah on aura
Half-Life. Mais c'est une
Alyx.
Super nouvelle là.
Half-Life Alyx en VR.
La VR là.
Exactement.
Moi ça m'a sauté. J'ai lu la news tout à l'heure là. J'ai fait waouh.
Tout à fait.
Bah si c'est vrai, ça peut être
mortel. Bah un épisode en plus quoi. C'est toujours cool de.
C'est toujours bon à prendre.
Une licence endormie depuis 10 ans. Allons-y quoi.
Il y aura bientôt Gordon Freeman dans. Smash Bros, c'est lui, il joue là.
C'est vrai, c'est vrai, on l'a oublié.
T'imagines. Parfait, parfait. Eh bien, il est l'heure, mesdames et messieurs, de passer au hors-jeu de la semaine. Et ce hors-jeu, ça va être
bonjour.
Avec Monsieur Johnny Wan.
Oui,
bonjour Johnny Wan, ça va ?
Bonjour, bah oui, ça va, tranquille.
Tu as dû parler de quoi
un manga
cette semaine
aujourd'hui.
Un mangas, même.
Un mangas. Mmh. Et oui, alors c'est pas
qui
un manga d'actualité,
là,
ouais, voilà, sur la table. Alors c'est Dédale. Dédale.
Attends, je vais aller le montrer à la caméra si
de...
tu veux.
Férisette au robot.
Takemichi. Voilà.
À tes souhaits.
C'est un one shot. Alors là, moi, j'ai la version one shot en gros. Alors, je suis dégoûté d'un peu d'avoir acheté cette version parce que elle a une couverture rigide.
Bah, c'est bien, les couvertures
rigides.
Non,
dans les trucs de manga, j'ai pas l'habitude, moi, d'avoir des couvertures rigides, quoi. Voilà.
Ouais, mais tu vas la garder 100 000 ans comme ça.
Ouais. Voilà. Donc, il existe plusieurs éditions parce que c'est un manga qui est sorti déjà il y a plus d'une année. Donc, on le trouve comme ça en intégrale rigide. Il y a un petit coffret avec les deux volumes où on peut acheter les deux volumes séparément parce qu'il n'y a que deux volumes. Mmh. Voilà. Oh. Donc c'est pas cher. Voilà. On paye 20 balles une fois et c'est terminé. Voilà. Donc, c'est un manga qui est super intéressant et qui devrait vous plaire, vous fans de jeux vidéo qui écoutez notre podcast, puisque ben on va pouvoir y retrouver tout un tas de références.
Ouais.
Alors déjà, premier truc assez surprenant, c'est qu'on a un couple d'héroïnes, donc deux femmes aux commandes. Alors je me rappelle plus leur prénom, hein. Mais toutes les deux elles travaillent dans une boîte de jeux vidéo. Elles sont, alors notamment c'est rigolo.
C'est Reika et Yoko, je crois.
Ouais.
Ça vient de me revenir à l'instant.
Ouais, bien sûr.
Alors la petite Reika.
Qui est Reika, qui est Yoko.
Voilà.
Il y en a une qui a un pied de biche. Je sais pas qui c'est, mais. Elle a joué dans Half-Life aussi.
Alors la petite Reika qui est donc la plus jolie des deux,
bah non, attends, c'est l'autre critère. Moi je trouve que celle de droite est plus jolie. Mais...
Ouais, bon, bah voilà, chacun ses goûts, merde. Hein. Donc ils sont tous les deux développeurs et notamment, alors c'est assez rigolo, elles sont testeuses de bugs quoi. Elles cherchent les bugs,
oui.
Elles chassent le bug dans les jeux vidéo.
Le Q&A.
Mais bah, cette espèce de réalité dans laquelle elles vivent où elles sont développeuses de jeux vidéo, on va jamais la voir puisque l'histoire commence avec nos deux héroïnes coincées dans une réalité virtuelle. Alors, pourquoi ? Bah, on sait pas, hein, forcément.
D'accord.
Au début. Voilà. Alors, tout ressemble, vous savez, à des maisons traditionnelles japonaises, à moitié en bois, à moitié en tatami, à moitié avec les murs en papier, là. Voilà. Et ça ressemble, l'univers ressemble à une espèce de dédale gigantesque avec une infinité d'étages, une infinité d'étages en dessous, à droite, à gauche. Mmh. Voilà. Quand les filles passent une porte, elles savent pas où elles vont arriver. En fait, les portes sont en mode random, les portes sont des téléporteurs. Voilà. Donc au début, elles se retrouvent coincées dans cet univers.
Mais là où elles sont très fortes, nos deux heures une, bah, c'est que leur boulot, c'est quoi ? C'est de dénicher les bugs. Et donc, ce qu'elles vont faire, alors moi, c'est rigolo parce que c'est un truc que j'adore faire dans les jeux vidéo, bah, c'est qu'elles vont chercher à casser le système. Voilà. Tout ce qu'elles vont pouvoir faire, bah, déjà.
C'est ce que tu fais aussi tous les samedis avec ton gilet jaune, hein, je tiens à rappeler. Tu casses le système.
Donc elles vont chercher à casser le système, à détourner les règles de ce monde qui a été établi, comme le fait que, par exemple, il y a un petit truc, elles s'en rendent compte assez vite, quand elles posent un objet sur une table basse, bah, cet objet apparaît sur toutes les tables basses du monde. Voilà. Et bah, à côté de ça, elles vont s'en servir pour quoi ? Qu'est-ce qui se passe si on pose une table basse sur une table basse ? Waouh !
Okay.
Voilà. Enfin voilà, elles vont faire tout un tas d'expérimentations comme ça dans le monde. Elles vont, bon, au final, il y a une espèce de petit fil rouge qui va se déverrouiller, qui va être bah, la sortie de l'univers. Mmh. Comment est-ce qu'elles vont faire pour s'en sortir et pour arriver à s'en sortir ? Elles vont arriver à communiquer avec un petit iPhone, un petit ordinateur à un moment avec une autre personne qui serait elle aussi coincée quelque part dans l'univers. Voilà. Il y a des monstres qui débarquent un peu partout. Alors c'est des monstres un peu particuliers, c'est des grosses boules géantes, un peu genre des Pac-Man. Et ces Pac-Man, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils mangent le monde. Voilà, c'est-à-dire que bah, si t'es dans une pièce où le Pac-Man arrive, faut vite que t'en sortes par la fenêtre parce que sinon tu vas te faire bouffer. Voilà, fenêtre qui va forcément t'emmener, te téléporter à un endroit random du truc. Ben voilà, donc les filles, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Eh ben, elles vont mettre elles vont se servir de toutes leurs compétences de
QA,
de gameuse, voilà,
QA,
et de testeuse qualité pour pouvoir se sortir de cet univers. Et donc, bah ben, moi, pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous parler de ce manga dans ce podcast aujourd'hui ? Bah, tout simplement parce que c'est formidable, voilà. L'histoire est géniale.
Donc il y a deux volumes, hein, c'est ça qui
est. Il y a deux volumes. Alors moi, comme je vous disais, j'ai l'intégrale, voilà, en un seul. C'est pas cher, c'est 20 balles une fois, ça prendra pas trop de place sur vos étagères parce que bah, ce sera pas une série en 42 tomes voilà, à rallonge.
C'est rare ça quand même pour un manga.
Ouais,
non
ouais. Donc là, les mecs, c'est leur fonds de commerce, c'est normal qu'ils fassent durer leur série. Hein. Tu sais, une série, oui. Plus longtemps tu la fais durer, plus longtemps t'as à manger dans ton assiette. Hein.
Forcément.
Voilà, hein, tout simplement. Et ben non, là c'est court. C'est court, c'est bien. Il y a plein de références aux jeux vidéo. Plein. C'est de bon esprit, c'est agréable à lire, les dessins sont cool. Bah, tout est bon en fait. Il n'y a rien à acheter dans cette histoire, dans ce dédale.
Génial.
Voilà, de Takamichi, sorti chez Doki Doki.
Doki Doki.
Voilà. Et
donc tu disais 20 euros l'intégrale.
Voilà, ça se trouve encore en librairie, hein, parce que ça a eu pas mal de succès, donc ça a été réédité quelques fois. Voilà.
D'accord.
Moi je crois que c'est la troisième réédition, moi, tu vois, que j'ai. Voilà. Et donc j'ai lu ça cet été à la plage et j'ai trouvé ça super cool et bah, je voulais vous en parler, voilà, dans un podcast.
Parfait.
Classe.
Merci beaucoup Johnny One, donc pour ce dédale chez Doki Doki. Donc l'intégrale que tu nous as présentée dans ce hors-jeu. Parfait. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce podcast 513. N'est-ce pas, Plume ? N'est-ce pas, Jenny ?
Probablement.
Oui, tout n'est-ce à fait.
Il semblerait, ouais.
Tigre souple. Eh bien, écoutez, voilà, on va se dire au revoir et on espère que ça vous a plu. Et on reviendra la semaine prochaine, notamment sur Stadia. Qu'est-ce qu'on en a pensé ?
Dans le fail, jamais 203. Hein.
Ben écoute, on verra. Hein, est-ce qu'il peut y avoir une bonne surprise à la fin, entre-temps ? On parlera aussi sans doute de Shenmue 3, c'est même quasiment sûr. Ouais. Hein, parce que Romain il est dessus, mais c'est vrai que c'est plutôt très long apparemment.
Il devait pas y être aujourd'hui d'ailleurs, tiens.
Non, parce qu'il a pas encore fini, donc c'est un peu compliqué. On enregistre le lundi, c'est peut-être pour ça aussi quoi. Si on avait enregistré le mercredi, peut-être qu'il y serait, mais.
Puis il fait des enfants entre temps. Enfin,
exactement. Ses nuits sont courtes. Donc c'est un peu plus compliqué.
Justement, jouer. Ça lui fait une excuse pour jouer, tu sais.
Mais il semblerait que le jeu soit très très Shenmue.
Ouais, très Shenmue-esque. Donc ceux qui apprécient Shenmue, bah. A priori, vous serez pas
apprécier.
Il y en a dans la pièce des gens qui apprécient Shenmue ?
Bah, moi je l'attends. Après, je me pose
la question. Je sais jamais.
Tu sais.
Ouais.
J'ai une histoire assez particulière. Avec ce jeu, j'y ai beaucoup joué. Mais je n'ai jamais dépassé la scène de la bagarre dans le dojo ou enfin bon bref.
Ouais, le début, quoi.
En gros le début.
Je le
voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois je lançais une partie, je faisais ma life et je me faisais rattraper par le game over. Voilà.
Ah ouais, d'accord.
Et j'ai dû faire ça, je sais pas, moi, une cinquantaine de fois.
Y a t'en avais marre ?
Bah non, c'était cool.
C'était
les premiers jeux monde ouvert un peu où tu faisais ce que tu voulais. Bah moi je faisais ce que je voulais, je kiffais ma life.
D'accord,
voilà.
Ok. Bah oui, c'est vrai que c'est la liberté totale chez nous.
Et donc je me faisais tout le temps, en fait, ma partie se terminait avec le game over parce que si tu vas pas assez vite dans les événements du jeu, au bout d'un moment tu te fais rattraper. Mais et donc j'y ai rejoint un petit peu là quand même avec la compilation qui est sortie l'année dernière où j'ai pu découvrir un peu plus le jeu. Voilà.
Parfait. Bah écoute, ça sera l'occasion d'en reparler, ouais. Sans doute avec Romain. Peut-être Julo, on sait pas s'il a eu le jeu entre temps, s'il a pu jouer.
Ah, oh bah Julo, est au Japon avec Yu Suzuki en train d'y jouer.
Ouais, c'est sûr. Parce qu'effectivement, ceux qui ont backé le jeu ont peut-être reçu, mais certains le reçoivent avant d'autres. Donc on sait
bah lui,
pas
il avait mis les 10 000 dollars, mais...
Au moins, ouais.
Bah oui.
C'est lui qui a financé tout le jeu, en fait.
Bah ouais, non, mais je pense que c'est bon. Il a été dîner avec Yu Suzuki, ils ont passé une nuit ensemble et ils ont joué au jeu.
Exactement. Il est pas suivant des Sega. Il est chez Sega, Julo.
Bah moi, j'ai mis 100 balles et je l'ai pas encore reçu.
Ouais, mais Poufi, pareil, il a mis 100 balles aussi, je crois.
Romain, paraît, c'est un peu décevant là, la petite boîte en plus là, non, que les gens ont reçu,
je sais pas. Carton, ouais.
Oui, ouais. Le fourreau apparemment il est pas terrible, j'ai vu ça sur le net.
Ouais, j'ai entendu, vu des gens se plaindre.
Moi personnellement, ça fait des mois que je fais un peu le dos rond et que je me suis dit,
oui, voilà.
C'est pas grave, un jour
j'ai joué. C'est le jeu que vous voulez, c'est pas, alors,
c'est pas grave. La communication façon prise d'otage filmée dans les
studios. Ceci dit, Yu Suzuki, ça t'as la version 6 signée par Yu Suzuki, etc.
Ça c'était un joli souvenir offert par Julo qui l'avait rencontré.
D'accord.
Mais non,
non mais
pour
ceux qui ont
baqué,
il me semble qu'ils ont tous ça. Ah bon,
non,
parce que j'en ai vu moi sur le net, sur Twitter,
avec quelques dollars en plus, je crois.
C'est, ça fait quand même longtemps qu'il a été baqué ce truc et je t'avoue qu'à un moment je savais même
plus
à quoi j'avais droit ou pas, quoi. Je voulais juste jouer au jeu et ça y est, on y arrive.
Si on a les versions backers, notamment Romain, il ramènera tout ici.
Ah bah Romain, il a les versions, il a tout ce qui est possible, je pense,
la version Bourges Max Plus. Parfait, bah écoutez, merci à toutes et à tous. Et puis nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission Gameblog. Merci à Pouffer la Technique, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis on se dit à très bientôt. Ciao, ciao, jouez bien,
ciao.
Portez-vous bien, salut.